I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Comme tout le monde, on va vous parler du trailer de GTA 6, mais on va essayer de dire des trucs intéressants dessus. On va aussi parler de Fortnite, Big Bang, le nouveau chapitre et les nouveaux modes de jeu, ainsi que Twitch qui quitte la Corée, et ça a des conséquences inattendues peut-être. Et on va aussi parler de Avatar, Frontiers of Pandora, c'est tout de suite dans le rendez-vous jeu. Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu, c'est l'épisode numéro 323, c'est le mois de décembre. On sent parce qu'il y a peu de... Les gens réservent leurs sous pour des trucs importants, genre acheter des cadeaux pour Noël, tu vois. Il n'y a pas de patriotes. C'est depuis quelques semaines là, c'est assez calme, mais il y a quand même le producteur Lancelot Davizard. Lancelot est là et est responsable de cet épisode, c'est à lui qu'il faut envoyer le hate mail si vous n'aimez pas ce qu'on dit. J'exagère. Mais c'est quand même lui, grâce à lui, que se fait cet épisode. Et grâce à tous les Patriotes, bien sûr, si vous voulez rejoindre la formidable famille des Patriotes, patreon.com/rdvjeu. Et celui qui me rejoint pour cet épisode, pour mon plus grand plaisir, mon bonheur, c'est J.K. Loret. Bonjour J.K., tu es malade?
Eh oui, salut. Ouais, bah, gentiment, hein, je reviens d'un voyage à Londres où j'ai chopé froid, mon fils sort d'une grippe, j'ai vu ma belle-sœur il y a quelques jours, le lendemain, elle nous apprend qu'elle a le Covid. Bref, on est aussi... honnêtement, je suis malade, mais je pourrais être beaucoup plus malade que ça. Pour le moment, ça va, je croise les doigts.
C'est Covid, ok. Parle pas direct dans le micro.
Je sais pas, j'espère que c'est pas Covid, mais...
Parle pas direct dans le micro, mets-le sur le côté, tu vois comme je le mets, moi. Hop, sur le côté.
D'accord, ok.
Comme ça, ouais, okay. Voilà, super.
Ok.
Je pense que moi, c'est le Covid aussi. Les enfants étaient malades toute la semaine, comme les gens s'en souviennent. Hein. Jeudi dernier, épisode avec les enfants derrière, c'était le chaos. Aujourd'hui, ils sont à la crèche. Donc, aujourd'hui, c'est vacances. Mais tu sais, c'est ce moment où t'as eu un truc intense. Et puis, t'as enfin l'occasion de te calmer un peu. Et là, c'est... Ouh, t'es crevé. C'est les vacances, ouais. Et tu te poses. Et pendant genre 2 jours, tu peux pas bouger, quoi. Et t'as plus d'énergie, cette phase, ouais. Que je suis. J'imagine que c'est la même chose un petit peu partout, mais nous, oui, il semblerait que ça soit le Covid. Bon. Qu'est-ce qu'il faut dire avant de commencer l'épisode ? Il faut dire d'abord qu'on enregistre avant les Game Awards. Les Game Awards, c'est ce soir, on en parlera dans un instant. Mais on n'a pas les résultats et les révélations du Game Awards. Par contre, on a plein de sujets hyper intéressants.
Ouais.
Je te propose qu'on se lance tout de suite avec GTA Allez. 6. C'est parti. Rien. Les news importantes de... cette semaine. GTA 6, comme on dit, comme tout le monde et sa maman, on va parler de GTA 6 et du trailer de GTA 6 qui a été publié une journée en avance par rapport à ce qu'ils avaient dit, parce qu'il commençait à y avoir des leaks, ils se sont dit, oh, bon, c'est bon.
Ouais, une demi-journée en fait, parce que ça a été publié vers minuit, je crois, et au lieu de 15h ou 14h le lendemain, quoi. C'est... Moi, ce que j'aime avec Rockstar, c'est qu'ils en ont vraiment rien à battre, quoi. C'est-à-dire que ils disent, bon, allez, franchement, c'est le jeu probablement le plus attendu de la décennie. On vous a dit qu'on le publiait, sauf que on publie 12 heures avant, allez, rien à foutre.
Ouais.
Et du coup, tous les sites internet du monde en PLS, parce qu'ils avaient préparé leurs articles, ils ont dû réagir
au quart de tour.
Je sais pas comment,
ouais.
Mais bon.
C'est sûr.
Ouais, ça a été terrible.
Ça a été. Et d'ailleurs, quand tu dis tous les sites en PLS, avant même de parler du trailer, je vous ai dit qu'on allait dire des trucs intéressants. Je voudrais dire un truc qui, je pense, est intéressant, c'est une réaction à. La réaction qu'ont certains au trailer lui-même. Avant la publication du trailer, il y avait beaucoup de gens qui craignaient justement la surabondance d'exploitation de la presse du trailer en faisant 12 articles, en parlant. Tout le monde en parle, on s'en fout. Il y a plein d'autres jeux sympas. Tout le monde fait la pub de GTA et tout le monde tombe dans le piège, machin, arrêtez. Enfin, ce genre de... ce genre de réaction préemptive. Et à ça, j'aimerais dire, juste en pré-réaction également, je comprends que les fans de jeux vidéo soient parfois frustrés que leur média soit représenté par un seul jeu qui est en plus un gros blockbuster fait pour plaire et un petit peu facile. C'est un petit peu le blockbuster, le cinéma pop culture, pas forcément, encore que, mais bon, pas forcément hyper profond ou recherché ou artistique. Je discuterai cette idée, mais je crois que c'est une idée qui est commune dans certains cercles vidéoludiques. Mais je ne comprends pas qu'on s'offusque à l'avance de ça, parce qu'il y a un truc qu'il faut comprendre. GTA, c'est le plus gros jeu de l'histoire du jeu vidéo. Alors, la raison pour laquelle je dis ça, c'est que GTA V s'est vendu à 190 millions d'exemplaires. 190 millions. Le seul qui soit vendu plus, c'est Minecraft. C'est évidemment phénomène de société, tout le monde en parle, machin, mais quand tu as un truc qui est aussi gros, tu peux pas reprocher aux gens d'en parler. Je comprends que ça t'irrite, mais c'est un petit peu pas vouloir accepter la réalité, tu vois, à un moment quand tu dis « Oh, encore, les gens vont parler que de ça, il n'y a pas que GTA dans la vie, il y a plein d'autres jeux cool, machin. » Bon, moi, ça me saoule.
Ouais. Après, je suis d'accord avec toi, c'est normal que tout le monde en parle, parce que c'est phénoménal et c'est très attendu, et que les médias généralistes s'en parlent. Après, c'est vrai que c'est là aussi qu'on voit dans ce genre de traitement les dérives qu'on a aujourd'hui sur par rapport au SEO, par rapport au fait que au lieu de faire un article qui résume tout, on fait 10 articles sur 10 sujets différents. Voilà, ça c'est un peu plus discutable, on va dire, mais malheureusement, il y a un schéma dans le web aujourd'hui, dans le web gratuit, qu'est-ce qu'il est, et le traitement médiatique, il est forcément un peu fatigant peut-être au bout d'un moment, tu vois. Mais pas par rapport au fait que par rapport au fait que tout le monde en parle, par rapport au fait que tu sois noyé de news qui sont à 80% qui n'ont aucun intérêt, quoi.
Oui, mais si tu veux, je pense pas que ça soit ça qui soit le truc que reprochait. À vrai dire, c'est pas tellement arrivé au moment du trailer. C'était une, deux, trois semaines avant, quand ils ont annoncé que le trailer allait arriver. Et comme on le dit dans le chat, c'est Antoine Daniel qui le disait, merci Frison, c'est la plus grosse œuvre culturelle du monde. Donc, à un moment, tu vois, c'est le fait, j'ai l'impression, hein, peut-être que c'est moi qui interprète, mais j'ai l'impression qu'il y a des fans de jeux vidéo qui étaient frustrés qu'on parle de GTA, autant, alors qu'il y a tellement d'autres jeux bien dont on pourrait parler. Et je pense que c'est un injuste de dire ça comme ça, parce que c'est pas de la faute du monde. Si GTA est plus gros que, j'en sais rien, moi, même sans aller jusqu'à caricaturer en parlant de Cocoon comme une œuvre artistique indépendante, mais si GTA est plus gros que Zelda ou j'en sais rien, quel est le truc que les gens aiment en ce moment.
God of War, je sais pas.
Ouais, enfin non, God of War, on est aussi dans cette catégorie triple A.
GTA, c'est au-dessus de God of War. Je veux dire, il n'y a rien au-dessus de GTA en termes de phénomène jeu vidéo. Parce que tu parles de Minecraft qui s'est vendu plus, certes, mais Minecraft, il y a Minecraft 2 qui est annoncé demain. Entre guillemets, tout le monde s'en fout, c'est un peu dur ce que je dis, mais il n'y aura pas le traitement médiatique qu'il y a eu sur GTA. Ouais. GTA a un statut à part dans la culture, tout simplement, tu vois.
Ouais. Puis Minecraft, même n'importe quel blockbuster au cinéma. Ouais.
Oui, c'est pas pareil.
Pas pareil. Bon, à côté de ça, il y a quand même des choses à dire sur le trailer lui-même. J'imagine que tout le monde a vu, hein, il sera bien sûr dans les notes de l'émission avec d'autres choses, mais dans les notes, je veux dire, dans la newsletter, on aura le lien vers le trailer, mais il s'est déjà vu à, je ne sais plus combien, Oscar Le Maire en parlait sur Twitter. Il disait, oui, voilà.
117 millions.
Alors, à ce stade, oui, il s'est vu sur YouTube à 117 millions, mais il avait été déjà vu 90 millions de fois en 24 heures. C'est le plus gros score en 24 heures de YouTube, en dehors de la musique, parce qu'il y a BTS qui a fait 100 millions en 24 heures. Avant ça, c'était MrBeast qui avait fait 60 millions en 24 heures. Là, ils font 90 millions en 24 heures. Bref, bon, succès, bien sûr. Mais le trailer lui-même, j'imagine que tout le monde l'a vu. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi ? C'est un trailer court, hein, qui dure 1 minute 30, oui, bah oui. Qui montre des scènes en moteur de jeu a priori. qui ouais. montre plusieurs scènes. C'est une sorte de montage avec une musique de Tom Petty, une chanson de Tom Petty derrière, qui révèle certaines choses comme le fait que bah, ça se passe bien à Vice City alias Miami. Les plateformes, c'est Xbox, PC, PlayStation, pas PC à ce stade. Et oui. la sortie est à 2025, on pourra en parler dans un instant. Mais qu'est-ce que tu as pensé du trailer en lui-même, toi ?
Alors déjà en préambule, moi je précise que je suis pas un énorme fan de GTA. C'est une licence que j'apprécie, que je trouve hyper intéressante à analyser et tout. Mais GTA 5 et GTA 4, c'est des jeux que j'aime bien, mais c'est pas, ça me rend pas fou. Dans chez Rockstar, par exemple, je préfère Red Dead Redemption. Mais cela dit, évidemment, quand j'ai vu le trailer popper, je me suis quand même jeté dessus parce que j'étais curieux. Bah, c'est un trailer qui est super efficace, mais qui est à 100% dans l'esprit de ce qu'a fait Rockstar avant. C'est-à-dire que si on met en parallèle le trailer de GTA 5, on était complètement dans le même esprit avec la musique. Un truc très cinématographique. Après, je trouve que ce que tu vois clairement, au-delà de ce que tu peux voir sur les infos sur le jeu, donc les deux personnages jouables, un homme et une femme, qui sont a priori des gangsters, tu vois aussi clairement...
Des gangsters dans GTA, ça on s'y attendait pas.
Ouais, c'est fou. Évidemment, ce que tu vois aussi, et là c'est peut-être encore plus mis en avant qu'avant, j'ai l'impression, la critique d'une certaine Amérique, de la façon dont Rockstar dépeint l'Amérique depuis le début, en fait, depuis GTA, même depuis les premiers GTA. Là, évidemment, tout le côté avec les réseaux sociaux, les images, il y a eu pas mal de trucs sympas, notamment sur Twitter, quelqu'un qui a comparé des images du trailer avec des images de la réalité, et en fait, Rockstar a repris des images, de vraies images de l'Amérique dans certains plans du trailer, et quand tu les mets à côté, c'est vraiment les mêmes images, en fait, donc clairement l'intention elle est là, donc je trouve ça cool. Après, moi j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont faire avec enfin un personnage féminin jouable, et surtout parce que donc c'est un couple, hein, les deux héros, comment est-ce que Rockstar va nous parler de romance et d'amour, parce que c'est un truc dont ils parlaient très peu, en fait, dont ils ont très peu parlé jusqu'à présent, en tout cas dans GTA. Donc je suis très curieux de voir comment ils vont aborder ce truc-là, et puis aussi de voir que bah, c'est le premier GTA où Dan Houser n'est plus impliqué, puisqu'il a quitté Rockstar en 2020, je crois. Donc là, il y a toujours son frère qui est là, hein, mais Dan Houser, qui était historiquement le scénariste de tous les GTA, je crois. Là, ce sera le premier GTA sans Dan Houser, donc je suis curieux de voir aussi la différence. Après, moi, ce que j'espère, juste en termes de gameplay pur, c'est qu'ils se débarrassent enfin des lourdeurs qui étaient encore là dans Red Dead Redemption, une prise en main qui n'est pas optimale, quelque chose qui n'est pas très 2023, etc. Bon, ça évidemment, en 1 minute 30 de trailer de cinématique, c'est impossible de savoir, mais j'espère avoir une expérience vraiment fluide et agréable à jouer, quoi.
On a vraiment un trailer d'ambiance, effectivement, et pas du tout de gameplay. Il y a beaucoup de choses que tu as dit sur le fait qu'on ait un personnage féminin. Enfin, c'est la première fois qu'on a un personnage féminin dans un jeu Rockstar. Enfin, comme protagoniste principal dans un jeu Rockstar, évidemment, c'est un sujet de curiosité. Il était temps, on va dire. Le truc qui me choque le plus, tu évoques le départ de Houser après Red Dead Redemption, et l'un des échos qu'on avait, c'était que il était le moteur de l'ambition démesurée de Red Dead Redemption 2, qui était, je me souviens qu'on parlait de quadruple A, et même de quadruple A d'auteur par certains aspects, tellement il était abscon, oui, oui. Dans certains de ses choix. Mais on parlait vraiment de l'ambition démesurée, où le réalisme était fou. Il y a cette plaisanterie qui revient toujours, des testicules des chevaux qui perdent du volume quand il fait trop froid, enfin ce genre de choses. Mais du coup, on pouvait légitimement se poser la question de l'ambition de GTA 6. Et ce que semble montrer ce trailer, c'est que l'ambition, elle est complètement intacte, et peut-être même plus grande que par le passé. C'est-à-dire que graphiquement, on a, à mon sens, des modèles graphiques. Si on prend un personnage individuellement ou un immeuble individuellement, alors on est clairement dans la current gen, qui était anciennement la next gen. Donc on est dans la génération qui est permise par les consoles de génération actuelle. Clairement, c'est de la bonne qualité visuelle. Mais là où on dépasse cette ambition graphique, c'est dans la densité de ce que nous propose visuellement le jeu. C'est-à-dire que, à la fois pour les immeubles, la végétation, les objets, les personnes, les foules, les véhicules, on est dans un environnement où tout ça est foisonnant. Quand on a une rue qui est une scène dans une rue, on a des tonnes de voitures très détaillées, des personnes qui marchent, des câbles électriques partout, des trucs dans le ciel. Enfin, il y a une densité qui est que moi, j'ai franchement jamais vue avant. Il y a une scène dans un strip club, tu ne vois pas devant toi tellement il y a une foule devant la caméra. Ça me fait un petit peu penser, alors ce n'est pas forcément les meilleurs augures, ça me fait penser un petit peu à cette scène d'Anthem dont on parlait avant de lancer l'enregistrement. Dans un showcase, ils avaient montré avant le lancement du jeu une scène dans le marché d'Anthem où il y avait justement cette foule où on pouvait marcher, il y avait plein de gens. Ça n'a pas été comme ça dans le jeu final. Un petit peu pareil avec Cyberpunk. On avait cette ambition aussi avec Cyberpunk qui se retrouve enfin un petit peu dans le jeu. Mais là, on est bien au-dessus. Alors, ça me permet de rappeler également que c'est un trailer uniquement qui semble être des cutscenes qui est lancé presque 2 ans avant la sortie du jeu. On disait c'est une sortie pour 2025. Certains attendaient 2024 parce que Take-Two avait dit on aura une grosse année fiscale 2024. Alors, l'année fiscale 2024 déborde en 2025 jusqu'en mars pour Take-Two, si je ne me trompe pas. Donc, ça peut vouloir dire que le jeu sortira en janvier ou février ou mars 2025, mais il est également possible qu'il le retarde de quelques mois au moins. Et pour sortir plus tard en 2025, c'est possiblement un jeu de fin d'année, hein, un truc comme ça. Ça, on ne sait pas à ce stade, mais si ça se trouve, il ne sera pas comme ça. Il est tout à fait possible que ces graphismes soient un target et qu'en réalité, on ait un downgrade. C'est possible. A priori, j'imagine qu'ils font attention, hein, mais c'est possible. Mais en l'état, bon sang, moi non plus, je ne suis pas un gros... Comment dire ? Je ne suis pas un gros fan de GTA. Et j'ai beau dire gros phénomène culturel, il faut savoir séparer son analyse objective d'une situation et son appréciation du jeu ou du produit qu'on juge. Moi, je ne suis pas un gros fan de GTA. Je crois que je n'ai jamais fini un GTA. J'ai joué à plusieurs, mais je n'ai jamais fini. Donc, je n'ai pas une affinité particulière. Le trailer, j'étais curieux de le voir, mais une curiosité un peu froide. J'avoue que j'ai été bluffé par ce que j'ai vu. Est-ce que toi, ça te donne aussi cette impression ? Enfin, là, je regarde une scène avec les deux protagonistes, donc Lucia et l'autre, qui est un petit peu en retrait dans le trailer, d'ailleurs, où ils sont dans un épicier, avec masqué, ils vont le braquer, on s'imagine. Il y a toutes les bouteilles sur les étagères sont crades, il y a les étiquettes de prix un petit peu partout, les bouteilles sont différentes, elles sont toutes... Enfin, ce niveau de détail, il y a un moniteur, une télé derrière avec les câbles qui sortent, qui sont mal posés. J'ai jamais vu ça, c'est incroyable, incroyable. Là, on rentre dans la next-gen, quoi, si c'est ça. Ah, tu t'es muté, JK.
Oui, ce que tu dis, si c'est ça, c'est effectivement ça le problème, c'est si c'est ça, c'est qu'on s'est tellement fait badaner depuis quand même des années avec des trailers qui, au final, enfin, j'ai l'impression qu'on continue à se faire avoir, et attention, le trailer est super cool, et je doute pas un seul instant que ça va être magnifique, et je veux dire, quand tu vois Red Dead Redemption 2, qui 3-4 ans après sa sortie reste encore un jeu absolument sublime. Mais voilà, on s'est fait extrêmement avoir ces derniers temps avec ce que tu disais, c'est une target, c'est le rendu que tu pourras peut-être avoir avec peut-être un PC avec une 4090 et machin, etc. Versus ce que tu auras au final sur la plupart des consoles, donc les PS5, etc. Donc moi, je suis, on va dire, relativement prudent sur un trailer d'une minute trente qui ne montre pas de gameplay, tu vois, techniquement pas de gameplay. Après, tu vois... Quand tu joues à l'extension de Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, qui est sorti il y a quelques mois, quand tu as un PC qui va bien, honnêtement, on est très très proche de ce qu'on a dans le trailer de GTA. Et il y a des moments qui sont absolument dingues en termes de rendu. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas...
impressionnant.
Voilà, je sais que ce n'est pas impossible, je sais que ce sera possible, mais voilà, je n'arrive pas à toute façon à me projeter dans ce que ça va ressembler avec un trailer aussi court et aussi cinématographique au final. Tu vois, le truc qui m'intéresse, c'est que par exemple, on voit quand même pas mal le passage qu'on a entre guillemets à la première personne, notamment un truc de dashcam avec une intervention de la police. Donc je me dis, est-ce qu'il y aura des moments comme ça, ça peut être super cool à faire. Enfin, En fait, j'espère aussi que il y aura des moments un peu inattendus, surprenants. En tout cas, en termes de scénario, une mission secondaire, etc., connaissant ce qu'a fait Rockstar, je n'ai pas trop de doutes. Mais même en termes de gameplay, quoi, de pur, de ce qu'on va me proposer comme mission. Quoi.
Donc, voilà. Je suis d'accord. Sur ces points-là, évidemment, on ne peut pas du tout juger encore. Enfin, à vrai dire, on peut juger sur rien. C'est une minute et demie de trailer, mais il y a quand même des choses qu'on peut dire. Je voudrais, avant qu'on avance, dire un petit mot sur cette question que tu as évoquée également, qui est la question du réalisme de des situations qu'il dépeignent, même si elles sont extrêmes. Cette vidéo qui était, je crois, partagée sur Reddit à la base. Merci Gandouille de nous l'avoir partagée sur le Discord, qui montre donc en parallèle les images du trailer de GTA V et les inspirations de la vraie vie en Floride. La Floride, c'est vraiment un état particulier, quoi. Pardon, de GTA 6, évidemment. La Floride, c'est vraiment un état particulier. Enfin, c'est les crackers,
C'est la décadence totale, quoi, de l'Amérique.
Mais c'est
quoi. Enfin,
c'est pas juste... Oui, la décadence, mais genre comment dire, c'est les white trash qui sont pas dans la Rust Belt, tu vois. C'est vraiment... C'est un état à part. Quand on pense aux pires Américains, tu imagines genre le Texas, ce genre de truc, dans l'imaginaire européen. La Floride, c'est vraiment particulier. Et quand tu vois le trailer de GTA 6, tu dis ah ouais, ils poussent tellement le bouchon, vraiment, c'est ils font dans le spectacle pour le spectacle. Et puis quand tu vois ces images, encore une fois, elles seront dans la newsletter, ces images comparées seront dans la newsletter, cette vidéo, tu te rends compte qu'en fait, oui, ils ont fait des choix de mettre ces images-là, des trucs qui sont les plus outranciers qu'on voit. Il y a le type en bikini, enfin pas en bikini, en slip, qui arrose ses plantes. Il y a le criminel fan du Joker qui s'est tatoué le visage comme le Joker. Il y a tous ces trucs-là. Mais ça existe. C'est vraiment des trucs qui ont été filmés en Floride. Et du coup, je trouve que ces choix dans le trailer deviennent un petit peu plus intéressants, à la limite. C'est-à-dire que, oui, c'est éditorialisé, c'est Rockstar qui dit, on va choisir ces aspects de l'Amérique, mais au début, tu peux te poser la question, et on se pose toujours la question de est-ce que c'est de la parodie, est-ce que c'est de la satire, ou est-ce que c'est de la glorification de ce genre, de cette partie de l'Amérique. Et vu les choix qu'ils ont fait, des trucs les plus...
Trash et débile, quoi.
C'est vraiment trash. Enfin, il y a des alligators qui sortent d'une piscine, des alligators qui rentrent dans un magasin, et les gens qui twerkent sur les toits de la voiture.
Voilà, ça typiquement, c'est des vraies images, quoi.
Voilà.
Mais après Rockstar, c'est vraiment la satire de l'Amérique. Enfin, même avec Red Dead, ils le faisaient. Avec GTA, il suffisait de mettre les talk shows dans la radio GTA pour entendre des trucs complètement débiles et complètement cons, mais qui sont, on imagine, très proches de ce que représente une certaine partie de la culture américaine. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aussi, entre GTA, il s'est passé 10 ans entre GTA 5 et GTA 6, l'Amérique a changé. Il y a eu Trump entre temps, par exemple, accessoirement. J'espère qu'il n'y aura pas Trump l'année prochaine, mais on verra. Et du coup, qu'est-ce que Rockstar a d'intéressant à dire sur cette Amérique qui a changé depuis 10 ans? Et moi, à la limite, c'est ça qui m'intéresse le plus dans GTA, parce que je trouve que cette analyse de l'Amérique, elle est toujours hyper, hyper cool, hyper intéressante, quoi.
On verra ce que ça donne, effectivement. Et cette frontière entre satire... Bah, ensuite, elle est un petit peu dans l'œil du joueur et du spectateur aussi, la limite entre la satire et la glorification.
Et ouais.
Moi, ça me fait penser, par exemple, aux réactions à The Last of Us 2 et la manière dont certains considéraient et jugeaient Joel. Tu vois, est-ce que c'est un héros? Est-ce que c'est un bourreau? Et il est évident que l'intention de Naughty Dog n'était pas de faire de Joel un héros, et certains l'ont considéré comme tel. Ensuite, on ne peut pas empêcher les gens de s'amuser sur GTA.
Évidemment. T'auras toujours la team premier degré qui comprendra pas plein de trucs, mais c'est pas très grave. Et le dernier truc qui a priori sera très présent dans le jeu, ça va être la critique. Ça, c'est entre guillemets un peu facile, mais c'est évident, la critique des réseaux sociaux, parce que tu vois plein d'images qui sont tirées de TikTok, t'as l'impression d'Instagram, etc. Ça, c'est un truc qui était déjà là avant, mais c'était, disons qu'en 2013, les réseaux sociaux étaient pas aussi puissants que ce qu'on a aujourd'hui, mais c'est un truc qu'ils ont toujours fait aussi, la critique du côté, superficiel des réseaux sociaux, quoi.
Bon, on verra. Moi, ce que je note, effectivement, c'est que ces choix des images mises dans le trailer, c'est pas juste la violence, c'est la décadence, ça a souvent été le cas, mais là, c'est un miroir de... On a choisi de vous montrer ces trucs les plus ridicules, absurdes, trash, et on les met en scène ici dans notre trailer. Faudra voir ce que ça donne dans le jeu, mais je crois qu'il y a une intention... artistique, quoi. C'est pas juste on vous montre le trailer, c'est je peux imaginer que dans le jeu, il y a aussi une intention artistique, comme on l'a vu par le passé. Mais cette frontière est difficile à établir, quoi. Je veux aussi dire que, pour le principe, GTA V et son succès sont évidemment dus à GTA Online. Alors, on n'est pas là pour parler, on parlera de GTA VI quand il sortira, et peut-être qu'au fur et à mesure des trailers qui arriveront, peut-être même qu'il y aura un truc dans les Game Awards, je ne pense pas, mais on ne sait jamais. Mais évidemment, on ne peut pas oublier GTA Online, et on peut imaginer qu'il va être transféré dans GTA 6 ou un truc du genre, parce qu'ils ne peuvent pas juste tout couper et recommencer, ça n'a pas bien marché avec Red Dead Redemption 2, par exemple. Mais oui, le succès de GTA 5 n'est pas dû qu'à GTA 5 lui-même, mais aussi au mode online, c'est évident, je voulais le mentionner pour qu'on ne l'oublie pas. Fortnite, le jeu que tu suis le plus au monde. Évidemment.
Oui, bah là, je pense que je vais être un peu moins volubile, mais à quand GTA dans Fortnite ? Parce que là, parti comme c'est, on pourrait reproduire GTA 5 dans Fortnite.
S'il y a bien un jeu qui n'a pas besoin de Fortnite, c'est GTA. Mais qui sait ? On ne sait jamais. Peut-être Lucia est le protagoniste masculin dans Fortnite au moment de la sortie en 2025. Qu'est-ce qui s'est passé dans Fortnite ? Pourquoi je reparle encore une fois de Fortnite ? Parce qu'il est bon, d'une part, de garder un œil sur l'un des jeux les plus importants de l'histoire du jeu vidéo et en tout cas du panorama vidéoludique d'aujourd'hui. C'est aussi pour ça que vous écoutez l'émission, pour être sûr de tout savoir et de tout comprendre ce qui se passe d'important dans le monde du jeu vidéo et même les choses que vous ne suivez pas forcément exactement au quotidien. En l'occurrence, c'était la fin d'un chapitre Fortnite, et comme à chaque fois qu'il y a une fin de chapitre Fortnite et le début d'un nouveau, eh bien, il y a un événement en jeu. En l'occurrence, c'était l'event The Big Bang, le Big Bang, en français, si vous ne comprenez pas bien l'anglais, je vous traduis. Et alors, ce coup-ci, je ne l'ai pas vu en jeu, malheureusement, mais je vous mettrai une vidéo de l'event lui-même dans la newsletter. C'était un event qui avait l'air super cool. Il y a eu, comme on en entendait les rumeurs, un concert d'Eminem en jeu. Il y a eu donc la l'île telle qu'elle est actuellement qui a été désintégrée. Et les protagonistes se sont retrouvés dans l'univers, dans un nouvel univers, avec plusieurs sortes de galaxies. Un nouveau chapitre pour Fortnite, le chapitre 5, avec une nouvelle île, plein d'effets magnifiques avec Unreal Engine 5, etc. Et le plus important, sans doute, pour vous tous qui vous foutez de cet event lui-même, le plus important, c'est, a priori, trois nouveaux modes de jeu qui sont en train d'arriver, certains sont déjà live. Trois nouveaux modes de jeu qui sont presque des nouveaux jeux intégrés à Fortnite, en fait. Les trois nouveaux modes de jeu, c'est d'une part le mode Lego, dans lequel ils ont recréé tout Fortnite. Alors, tout Fortnite, ça ne veut rien dire, mais une île de Fortnite, on va dire, avec tous les skins que vous avez déjà en Lego et qui est devenu un mode créatif dans Fortnite à la Minecraft. En gros, Lego s'est associé à Epic pour faire un Minecraft dans Fortnite, et tout ça est en mode Lego. Et a priori, c'est pas un petit mode temporaire, c'est un truc qu'ils veulent suivre sur le long terme. Et c'est un mode qui n'a pas du tout de combat ou de choses comme ça, c'est vraiment un mode hyper basé sur le créatif. Donc ça, c'est un gros morceau.
C'est un match tellement évident qu'on se demande pourquoi ça n'a pas été fait avant. En fait, quand on y réfléchit, je dis bah oui, c'est super logique. Même par rapport au public cible de Fortnite, tu vois.
Il y a déjà un mode créatif dans Fortnite, mais personne. Je pense que les gens qui ne s'intéressaient pas à Fortnite ne sont pas forcément allés le voir. Là, je pense que ce mode-là, beaucoup de gens risquent d'aller y jeter un coup d'œil. Et moi, je vais y jeter un coup d'œil, peut-être pour mon fils. Ça peut être super cool d'avoir un mode créatif sans violence. Encore que j'ai dû lui dire qu'il fallait plus jouer à Overwatch, même en mode training, parce qu'il jouait un peu trop, donc on limite la casse. Mais donc, il y a ce mode créatif, il y a quand même des créatures qui attaquent des châteaux, et tout ça étant Lego, bref. Mais c'est qu'une partie de l'histoire, parce qu'il y a aussi deux autres modes de jeu. Un mode Rocket Racing, et si Rocket quelque chose, ça vous dit quelque chose, bah c'est parce que Rocket League, qui est également un truc que mon fils adore, c'est un jeu qui est développé par Psyonix, que Epic a racheté. Et ils leur ont fait faire un mode course dans le moteur de Fortnite, mais qui est un mode séparé. Et donc, on a effectivement un mode course à la Rocket League, mais pas en match de foot, mais en course, dans le moteur de Fortnite. Ça, c'est le deuxième mode. Et il y a un troisième mode qui est un mode musical, développé par Harmonix, Guitar Hero, que Epic a également racheté. Et donc, il y a ce mode musical, et c'est là qu'on a vu le concert de Eminem, qui est désormais un mode de Fortnite. Alors, je ne sais pas exactement comment ça s'intègre dans le client du jeu, je ne suis pas encore allé voir, j'avoue, mais donc, il y a désormais, en plus du mode Fortnite classique, chapitre, entre parenthèses, je ne l'ai même pas mentionné, hein, mais le mode normal du chapitre 5, il ajoute plein de trucs aussi. J'ai mentionné les graphismes avec Unreal Engine 5. Il y a aussi des accessoires pour les armes à la Battle Royale plus classique, genre Warzone ou Battlegrounds. Enfin, il y a plein de trucs en plus, mais il y a aussi ces différents modes. Je ne sais pas si certains seront temporaires ou s'ils sont censés rester longtemps, mais voilà, donc c'est Fortnite qui continue à faire des choses incroyables avec son moteur et ses ambitions. Je pense que ça va faire des raisons d'aller voir de quoi il s'agit, quoi. Tu t'es encore muté ? Ou t'as juste rien à dire ?
Non, j'ai pas grand-chose à dire, je suis désolé, sur Fortnite. Non, mais c'est
moi, non, alors, il y a deux choses que j'ai à dire.
Beaucoup le mode Lego, ouais, juste le mode Lego, à la limite, c'est le truc qui... Typiquement, mon gamin qui a 7 ans, il joue un peu à Minecraft, il s'y met, etc. Et il trouve ça super cool. Mais des fois, c'est un petit peu compliqué, tu vois, en termes d'interface, de prise en main et tout ça. S'ils arrivent à faire un mode Lego qui soit peut-être plus facile d'accès à des enfants plus jeunes dans Fortnite, bah, ça peut être chouette, quoi.
On me dit dans la chatroom qu'on peut rajouter les voitures de Rocket League dans le mode Rocket League, dans le Battle Royale, parce qu'il y a des véhicules aussi. Enfin, c'est des trucs... je trouve ça très, très malin. D'abord, une chose que je voudrais dire, l'une des annonces des Game Awards, ça sera peut-être que Microsoft veut lancer son store et qu'il y aura les jeux d'Epic dedans, peut-être. C'est son store mobile, hein, parce qu'on se souvient que Fortnite n'est plus sur mobile depuis longtemps.
Ah oui, c'est vrai.
Et Microsoft veut lancer son
store mobile. Bon. N'est plus sur les stores des apps, mais enfin, des constructeurs, quoi.
Voilà, c'est ça. Bah, il est plus sur les App Store depuis un moment.
Oui.
Y a un autre truc qui me paraît intéressant à noter sur cette évolution de Fortnite, c'est que la manière dont ces jeux services évoluent me paraît différente de ce qu'on a connu il y a quelques années. Parce que je l'évoquais un petit peu avec League of Legends la semaine dernière. Mais il y a quelques années, c'était vraiment une sorte de roulement de jeux-services où il y en avait qui arrivaient et puis ils disparaissaient, ils étaient remplacés, tu vois, c'était la mode et puis ça durait 2, 3, 4 ans et ils s'étaient remplacés. Là, j'ai l'impression que chaque jeu-service qui dure est en train de devenir un univers à lui tout seul, et évidemment que Fortnite en est un exemple. League of Legends, qui continue... encore aujourd'hui, en est un exemple aussi. Et on est à un stade, comme je le disais la semaine dernière, où les jeux peuvent durer parce que technologiquement, on peut les faire évoluer, même s'ils vieillissent, on peut les faire évoluer et continuer à les exploiter. Et même World of Warcraft, je ne sais pas si vous avez suivi, je pense que beaucoup dans notre audience suivent World of Warcraft, mais il y a dans WoW classique des serveurs qui s'appellent les Season of Discovery. Qu'est-ce que c'est les Season of Discovery ? C'est WoW classique, donc la version de World of Warcraft qui est déjà une version alternative de WoW normal, retail, en mode on vous sert WoW tel qu'il était à la sortie, hein, ça c'est WoW classique, qui a évolué avec l'ajout d'extensions, etc. Ben là, il y a une saison, enfin un serveur, où on a une variation sur le mode classique de World of Warcraft, avec des raids qui sont ajoutés à un nouveau level cap qui est plus bas, des nouvelles capacités qui sont importées des extensions futures, mais qui changent la manière de jouer les personnages à bas niveau. Genre, on peut avoir des personnages DPS qui se mettent à tanker, des mages qui se mettent à soigner, ce genre de choses. Et c'est là où ça m'interpelle, c'est pas tant parce que World of Warcraft continue, c'est que cette branche de World of Warcraft, qui est devenue assez importante, semble-t-il, on n'a pas les chiffres, mais semble-t-il, pour le jeu lui-même, on y a accès quand on est abonné au jeu normal, hein, ce n'est pas un abonnement en plus, mais cette branche, on se demandait comment ils allaient la faire vivre, au-delà du fait de rajouter des extensions, mais à un moment, tu continues à rajouter des extensions, tu reviens à retail, quoi. Bah là, ils ont créé en fait une saison, une vraie saison, comme pour les autres jeux services qui ont des saisons, dans la branche classique de World of Warcraft, qui est déjà une sorte de truc différent. Je trouve qu'il y a dans cet ensemble, enfin une tendance de l'industrie qui est de faire durer les jeux au-delà de ce cycle qu'on a connu pendant, je sais pas, peut-être 15 ans de jeux qui venaient et qui disparaissaient. Et ça me paraît intéressant à noter, quoi. Bon, voilà pour Fortnite. J'irai explorer, moi, le mode Lego, je pense, voir s'il est approprié pour mon fils. La dernière news que je voulais évoquer, c'est un truc qui est tombé il y a 2 jours. C'est la décision de Twitch de quitter le marché coréen, le marché sud-coréen, évidemment, à partir de février, de fin février. La raison, on en parlera peut-être dans le rendez-vous tech, parce qu'il y a une raison politique derrière, une raison de politique publique qui fait que Twitch doit payer des frais aux hébergeurs, aux fournisseurs d'accès pour la bande passante, qui est un débat que beaucoup de gens ont depuis longtemps. Mais là, l'une des conséquences, c'est que c'est trop cher pour eux d'opérer en Corée du Sud, et donc ils vont quitter le pays et aider les streamer à être transféré sur d'autres services, des services concurrents. On pourrait se dire, bon, bah, c'est la Corée du Sud, on s'en fout, très bien, ils font leur vie. Sauf que, évidemment, la Corée du Sud, c'est le pays de l'e-sport et les meilleurs joueurs de la plupart des e-sports, que ce soit évidemment League of Legends, mais alors Overwatch, on verra si ça reprend. Les jeux de combat, enfin, tous les e-sports, c'est pas vrai, pas tous, mais une bonne partie des e-sports, les meilleurs joueurs sont en Corée, souvent en Chine aussi, mais aussi en Corée. Et le fait que Twitch quitte la Corée, alors que Twitch est la plateforme de base du streaming et que la Corée est le pays de l'e-sport, je me demande comment ça va fonctionner. Ça risque d'avoir des conséquences importantes si le pays lui-même, le pays de l'e-sport, n'utilise plus Twitch pour ses streamings de compétition, quoi. Et du coup, ça va se... Enfin, les meilleurs joueurs, par exemple, ne vont plus streamer sur Twitch. Et les gens qui sont adeptes d'e-sport vont regarder les joueurs coréens sur Twitch. Ah, peut-être qu'ils vont, avec des VPN, je ne sais pas, passer par garder leur compte et streamer ailleurs. Peut-être que un concurrent, peut-être Kick par exemple, qui est pourtant controversé, ou YouTube, vont pouvoir prendre la place. Je ne sais pas, ça risque de bousculer un petit peu le monde du streaming, je crois.
Ce sera intéressant à suivre. Après, est-ce qu'il y a une plateforme de streaming coréenne? Est-ce que ce n'est pas aussi...
Oui.
Je ne pense pas, hein, mais il y en a une, mais qui doit être minuscule, j'imagine, par rapport à Twitch, forcément. Est-ce que ce n'est pas une façon aussi tu vois, de pousser peut-être à utiliser un produit, une plateforme coréenne, sud-coréenne en tout cas ouais.
C'est
surprenant possible, parce que dans la news, il disait, enfin dans la news que j'ai lue, donc le communiqué officiel disant que les coûts étaient 10 fois plus élevés que dans les autres pays, en fait, les coûts d'entretien, d'infrastructure, etc. Donc c'est pas rentable en fait pour eux, ça fait des années qu'ils perdent de l'argent sur la Corée. Et au total, je crois que ça représente genre, la Corée c'est 5% de... Ça pendant 5, c'est tout petit par rapport au niveau mondial Twitch, de Twitch, mais c'est vrai que pour le Cali Sport spécifiquement, c'est vrai que c'est problématique, quoi.
Exactement. Et c'est, alors là encore, merci au Discord, c'est Damaki qui avait fait cette rapide recherche sur les raisons. Et il a trouvé un article qui détaille le fait que il y a une législation qui a été votée il y a quelque temps et qui était sur le point d'être votée il y a un an, qui impose des coûts de partage de coûts de la bande passante des over-the-top services. Bref, on en parlera dans le rendez-vous tech, mais c'est pour ça aussi que ça joue. Mais oui, le truc, c'est que les conséquences ne sont pas juste « bon, bah, les Coréens vont utiliser autre chose ». C'est que les meilleurs joueurs coréens, est-ce qu'on va pouvoir les voir de l'Occident ou alors il va falloir se connecter aux services coréens? Et puis bon, on sait tous à quel point un peu de friction comme ça fait qu'on n'a pas forcément envie d'y aller parce qu'on est déjà sur Twitch. Est-ce qu'ils vont utiliser un autre service comme YouTube qui est disponible partout et du coup, ils pourront servir toute la communauté? Parce que les joueurs coréens, je suis sûr qu'une grande partie de leur audience est en Corée, mais une grande partie de l'audience est également en dehors de la Corée. Donc, je pense qu'ils veulent pas se couper de cette audience non plus, même si, je sais pas, si c'est 50-50, bah t'as pas envie de te couper de 50% de ton audience, quoi. Il y a également les compétitions, elles sont toutes streamées sur Twitch. Quant à les plus gros sponsors qui sont coréens et qui veulent parler au public coréen, parce que SK Telecom, enfin, ils sont contents qu'on parle d'eux dans le reste du monde, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils soient vus en Corée. Bah, si Twitch n'est plus en Corée, ils vont peut-être dire « Désolé, vous match, vous les streamez ailleurs ». Alors, ensuite, il y a plein de solutions. Hein. Tu peux streamer sur tous les services, et puis les trucs en anglais sur Twitch, et puis les trucs pas en anglais ailleurs. OK, tout est possible, c'est certain. Mais je pense que ça peut avoir des conséquences intéressantes sur l'e-sport. En tout cas, un réajustement et une opportunité pour certains concurrents, là où elle n'était pas forcément visible autrement. C'est tout pour nos grosses infos du moment. J'aimerais vous rappeler que cette émission existe grâce à vous. Oui, vous, les auditeurs et les auditrices. Si vous voulez soutenir l'émission, c'est patreon.com/rdvjeux. Vous pouvez envoyer des sous-sous à Patrick, qui aime bien les sous-sous, comme on le disait dans la chanson faite par Ria, qui aime bien les sous-sous pour manger. Il aime bien manger aussi, Patrick. Donc, vous pouvez soutenir l'émission sur patreon.com/rdvjeux pour des sommes modiques. Je suis trop fatigué pour faire une promo Patreon intéressante, donc je vais m'arrêter là. patreon.com/rdvjeux, si vous voulez moins de promos, vous pouvez vous abonner au flux privé auquel vous avez accès quand vous êtes patriote. Et là-dedans, bah, y a pas de promo, il n'y a pas de pub. Déjà, une bonne raison. Moi, ça me paraît être une raison suffisante, en plus du fait d'être gentil et honorable et sympathique et de soutenir une émission que vous appréciez.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
On se lance dans les jeux auxquels on joue en ce moment. Il n'y a pas forcément énormément de jeux auxquels moi j'ai joué. Donc, je vais laisser JK nous parler plutôt. et puis, je dirai un ou deux petits trucs après. Mais à quoi as-tu joué, JK? Dis-nous tout.
Est-ce qu'on fait rapidement un petit... On commence rapidement par Avatar ou pas? C'est la plus grosse sortie, mine de rien, de ce mois de décembre, je pense, parce que là, on sait, on arrive à la fin de l'année. Alors, c'est la plus grosse sortie, et c'est vrai que c'est marrant, parce que j'ai eu des articles sortis passés en disant... C'est vrai qu'on avait oublié qu'Avatar sortait. C'est vrai que c'est terrible, parce que c'est un triple A Ubisoft dans un monde ouvert qui, en soi, est pas dégueu, et j'ai l'impression que tout le monde s'en fout, quoi. Alors, on verra ce que ça donne au niveau des... au niveau des notes et des ventes, c'est surtout des ventes, parce que les notes, elles sont pas trop mal, mais c'est pas non plus incroyable.
Oui, on est à peu près... Je mettrai dans les notes de l'émission le test de jeuxvideo.com, de JV.com. J'en ai regardé plusieurs et lu plusieurs. Dans l'ensemble, ce que disent les gens, c'est une bonne adaptation d'une licence. On avait l'habitude, il y a quelques années, d'une adaptation vite fait, un petit peu pourrie. Là, ce n'est pas un jeu incroyable, mais si vous aimez Avatar, a priori, vous pouvez y prendre beaucoup de plaisir. C'est un peu trop plein, comme souvent les jeux Ubisoft, c'est un peu répétitif, mais c'est quand même un jeu correct. On est à du 15 sur 20, 75, 80, quoi.
Oui, voilà.
Ce genre de truc.
Ouais. Mais, bon, voilà, t'as résumé parfaitement ce que j'allais te dire. Donc,
ah merde, pardon, désolé.
Non, je rigole. Non, en fait, ce qui est intéressant, entre guillemets, c'est que c'est vrai que, par contre, ils ont fait un super boulot, et ça, là-dessus, ils sont très forts de reproduction de l'univers, en fait. Et ça, c'est très impressionnant. Visuellement, alors moi, j'y joue sur PC, le jeu est très, très, très beau. C'est vraiment, je pense que j'ai jamais vu une jungle aussi luxuriante, aussi détaillée, aussi belle que celle d'Avatar. Et en plus, donc moi, franchement, j'en suis qu'au début du jeu, donc je vais vraiment m'attarder plus sur la partie technique, parce que le gameplay, est bon, d'après les tests et d'après mon premier ressenti, oui, c'est un jeu Ubisoft, on se moquait avant la sortie en disant c'est Far Cry avec un skin Pandora, mais il faut dire ce qu'il y a, c'est Far Cry avec un skin Pandora, quoi. ça peut convenir à plein de gens, tu vois. Mais ceci étant dit, ils ont quand même pris en compte le fait que ça se passe à Pandora et que tu incarnes un navire. Alors, je pense que clairement, si t'es pas du tout sensible à l'univers des films, ça va pas. Enfin, franchement, tu vas rester complètement froid. Moi, j'aime beaucoup les films Avatar. Et c'est vrai qu'ils font une intro qui est super réussie. En fait, tu incarnes donc dans le jeu une Navi qui est en fait, et c'est une bonne façon de t'introduire à l'univers comme le personnage qui a vécu en fait enfermé dans une sorte de camp d'éducation par des humains pendant toute sa vie, parce qu'on lui a toujours dit Pandora c'est dangereux, il ne faut pas sortir, etc. Donc c'est un peu une intro à la Fallout, en fait, où pendant bien 20 minutes, tu es dans un abri, etc.
Elle a été capturée par les humains à sa naissance, et elle est, du coup, elle ne connaît pas Pandora, voilà. Quoi.
Elle ne connaît pas du tout. Et en fait, il y a un petit groupe de Navi, ils sont 4-5 comme ça, à avoir été éduqués par des humains, à avoir été en contact des humains, donc à avoir l'habitude des humains. Sauf que derrière, tu comprends qu'il y a un truc un peu sale, évidemment, on les retient captifs. Et t'as vraiment une scène très, très chouette de suite, parce que la guerre éclate, donc ce qui correspond à l'intrigue du premier film. Et après, bon, bref, il y a une ellipse temporelle et t'arrives au niveau du deuxième film. T'as vraiment une scène à la Fallout, en fait, après avoir passé 20-30 minutes dans un abri, t'as une porte qui s'ouvre et là t'as Pandora qui se dévoile devant toi en temps réel, évidemment, parce que tu contrôles le navire. Et moi, j'étais vraiment hyper bluffé par le visuel. C'est vraiment très très beau. C'est très très beau. Et ce qui est réussi aussi, c'est que ils ont vraiment réussi à te donner l'impression d'incarner le personnage, dans le sens où physiquement c'est donc les navires ils sont beaucoup plus grands que les humains. Ils sont très souples, ils sont très rapides. Ce qui fait que tu peux très facilement monter aux arbres, tu peux très facilement courir, sauter, etc. Il y a un côté hyper dynamique dans les mouvements qui est très bien transcrit et ça c'est vraiment chouette. Et t'as aussi toute une partie lien avec la nature qui est sympa, où tu dois analyser des plantes, des objets, tu dois utiliser un sens spécial avec la nature pour pouvoir te repérer et tout ça. T'as un mode même exploration je crois que ça s'appelle exploration, qui te donne presque pas d'indice sur ce que tu dois faire, en fait, et tu dois vraiment analyser l'environnement pour continuer et tout ça. Et ça c'est plutôt sympa.
Ce mode exploration, ouais. Tu veux dire c'est le mode où tu as le The Witcher View, The Detective View, machin, où tu as sur l'écran surimposé une sorte de...
C'est un peu ça, ouais. C'est un
et,
peu ça.
Et ça, donc, tu dis, c'est pas que ça te donne la solution tout de suite, c'est sympa?
Alors, en fait, cette vision spécifique, tu l'as dans les deux modes, le mode normal et le mode exploration. Mais en mode exploration, en plus, tu n'as pas d'indicateur sur ta carte, parce que tu as une map.
C'est les options que tu peux régler pour être moins dirigé.
Voilà.
Okay, d'accord.
Tu peux vraiment avoir une expérience hyper immersive, quasiment sans HUD, ou alors un truc où à la Ubisoft où tout est indiqué partout. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et même en termes de gameplay, il y a plein de trucs qui rappellent aussi un petit peu Horizon, les jeux Horizon, parce que tu dois aller récupérer des branches pour fabriquer des flèches, ta première arme et ton arme principale au début, c'est un arc. Voilà, tu vois le genre. Après, effectivement, la première mission qu'on m'a donnée, c'est d'aller nettoyer un camp humain qui est en train de polluer la région. Et t'as bien compris que ça, nettoyer des camps humains, tu vas le faire, tu vas le faire 10, 15, 20 fois, 30 fois dans le jeu.
Ouais.
Voilà. Mais pour le moment, je ne peux pas me prononcer là-dessus parce que j'en suis qu'au début du jeu, donc j'en suis pas encore au moment où je trouve ça lassant. D'après ce que je lis, malheureusement, c'est un peu le cas. Par contre, enfin, mon impression a été confirmée parce que j'ai lu que Tom Test, si on est sensible à l'univers d'Avatar, et c'est un super travail de reproduction. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Le jeu est très très beau, c'est hyper propre, c'est assez gourmand, mais c'est fluide. Sur PC, il faut quand même une bonne machine si tu veux en profiter à fond, mais c'est très impressionnant. Donc voilà, je suis agréablement surpris par ce jeu, finalement, parce que honnêtement, je m'y intéressais très peu alors que j'aime bien Avatar, mais bon, je me suis dit là, c'est bon, à la fin de l'année, on a donné au niveau jeu, on va se calmer. Et puis finalement, on m'a envoyé une clé, puis je l'ai lancé, puis j'ai trouvé ça assez chouette. Donc voilà.
Donc plutôt je vais pas dire une bonne surprise parce qu'on avait l'impression que c'était cool quand même. C'est pas le jeu de l'année, ça serait peut-être même pas le jeu de l'année dans une année moins fournie, mais par contre. C'est un bon jeu, quoi. C'est un jeu qui peut vraiment plaire à un certain public. Ça retranscrit bien l'univers d'Avatar. Il fait le job, quoi.
C'est ça. Voilà. Si on est complètement client du style de jeu Ubisoft avec ce que ça implique des fois de côté un peu répétitif, mais le côté hyper carré, hyper immersif en fait de l'univers, déjà c'est réussi. Et puis en plus, si on est sensible à l'univers de Pandora et d'Avatar, je pense que ça peut plaire. Après, ça révolutionne pas le genre. C'est marrant parce que Ubisoft, ils avaient fait un jeu Avatar au moment du premier film qui était une catastrophe. Là, on sent qu'ils ont bossé, quoi. Et d'ailleurs, c'est les développeurs principaux, c'est Massive. Et Massive, c'est des gens qui savent y faire. C'est ceux qui sont dans un style différent, mais c'est ceux qu'on fait The Division, et The Division dans son genre est vraiment très très est vraiment un super jeu. Ouais. Donc on sent quand même le savoir-faire derrière, en tout cas en termes de mécanique de jeu, quoi.
Donc Avatar Frontiers of Pandora, plutôt une réussite. On vous mettra donc dans les notes de l'émission le test de Jinxeb de jeuxvideo.com, dans les notes de l'émission, dans la newsletter, j'entends, évidemment.
Ouais.
T'as aussi joué à un jeu dont je suis un petit peu curieux, The Invincible.
Invincible, tout à fait. Ouais. J'ai même terminé, je l'ai terminé il n'y a pas plus tard que hier soir, je crois. Bon, bref, peu importe. The Invincible, c'est un jeu qui était dans mon radar depuis son annonce. Il a été annoncé, je pense, il y a peut-être un an. Je ne sais pas si tu te souviens, c'est un jeu qui se passe, qui est adapté d'un roman de science-fiction qui est, je crois, russe. Je crois que le roman est russe. Qui est un roman de science-fiction qui avec un style, avec un côté très rétro. Et moi, c'est ça que j'adore dans le jeu, en fait, c'est le côté très rétro-futuriste. Et en fait, on incarne donc une jeune femme qui s'appelle Yasna, qui atterrit sur une planète qui s'appelle Régis 3. Voilà, Régis 3, c'est un rigolo pour un Français, mais qui ressemble à Mars. Ouais, c'est Mars, c'est complètement Mars dans le design, et qui va devoir en percer les mystères. Et elle découvre que la plupart de son équipage, soit ils sont morts, soit ils sont devenus complètement fous, et elle sait pas ce qui se passe. Elle est en contact permanent avec ce qu'on appelle l'astrogator, qui est une sorte de son commandant, en fait, qui est resté dans le vaisseau. Donc il se parle pendant tout le jeu, vraiment, et on peut choisir les réponses, etc., etc. On est sur un jeu très narratif, avec très peu d'énigmes. On est là pour vraiment suivre une histoire, très immersif. En fait, si je dis tout ça, et si vous connaissez un tout petit peu le genre, vous allez forcément penser à Firewatch. Et c'est, en fait, voilà, en termes d'inspiration de gameplay, c'est Firewatch. Alors, c'est pas aussi réussi que Firewatch, parce que Firewatch, pour moi, c'est un très, 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 très grand jeu. Mais c'est très sympa. J'ai beaucoup aimé déjà l'univers est vraiment super. Encore une fois, ce côté technologie complètement analogique, avec des robots, avec de la vieille Ferra, des interfaces avec plein de boutons, etc. C'est super agréable. Et l'histoire est assez chouette. Le jeu est vraiment se fait presque d'une traite. C'est typique de ce style de jeu, donc ça dure 5-6 heures, quoi, maximum.
C'est Walking Simulator.
Voilà. Et quand je dis walking, c'est vraiment walking. Donc, faut être prêt aussi à. C'est même pas méchant ce que je dis. Faut être prêt à se faire un peu chier, quoi.
Ça a l'air méchant quand même quand tu le dis comme ça.
Alors, c'est un peu dur. C'est un peu dur, mais dans le sens où effectivement le personnage. À la fois c'est une qualité et un défaut, c'est-à-dire que il retranscrit très bien le fait d'explorer une planète hostile avec une combinaison. Donc, ton personnage marche vraiment très lentement, prend son temps. Tu sens vraiment toute la lourdeur de la combinaison. Tu peux courir, mais bon, ça change pas grand chose. Pareil, à chaque fois qu'elle va s'agripper à un rebord, tu sens vraiment toute la difficulté qu'elle a. Et ça, franchement, c'est très immersif. Par contre, des fois, tu te dis, putain, j'aimerais bien que t'avances un peu plus vite parce que j'aimerais bien que ça aille un peu plus vite, quoi. Mais ce côté très contemplatif et très zen finalement du jeu, parce que c'est pas un jeu d'horreur, hein, tu vois. Je le dis tout de suite, hein, c'est pas un jeu qui fait peur ou quoi. Il y a vraiment une histoire qui est très intéressante, qui est très sympa, un personnage qui est super. Et voilà. Et donc voilà, quelques petits défauts en termes d'interface. Des fois, je te dis ça répond pas forcément très bien. Des fois, tu pestes un peu contre le jeu là-dessus. Mais voilà, si vous êtes amateur de voilà une bonne histoire de SF, hein, avec un côté rétro, avec en plus un gameplay très simple, voilà, vous allez pas vous prendre la tête. C'est un bon candidat. D'accord. Voilà, c'est le genre de jeu. T'auras dit c'est game passable, tu vois, à fond. Il n'est pas en Game Pass malheureusement, mais ça aurait été un jeu parfait pour le Game Pass. Je sais pas si ce sera un jour.
Tu veux dire que c'est plutôt. C'est ça que tu veux dire?
J'ai pas entendu le jingle.
Ah merde! Putain.
Voilà.
Attends. Je connais, t'inquiète. On va la refaire. Tu vas me dire si là t'entends. Tu veux dire que c'est plutôt. Un jeu passable! T'as voilà, toujours pas entendu? Exactement. Si, c'est ça. Ok.
Si, j'ai entendu. Si, c'est bon. C'est bon. Ouais, exactement, c'est ça. Je t'avoue, je sais pas combien il est le jeu. S'il est à 20 euros, ça va. Je mettrais pas 40 euros dans un jeu comme ça, tu vois. Mais c'est moi c'est le genre d'expérience que j'aime bien, et le jeu est très beau, les franchement les décors, t'as des paysages qui sont à tomber par terre, donc c'est cool.
Donc science-fiction, c'est un peu tu est-ce que au niveau science-fiction c'est intéressant, genre t'as des trucs mystérieux, des trucs où tu dis ah ouais ça c'est cool, genre cette civilisation alien, je sais pas, c'est ce genre de truc, quoi. C'est pour ça que
heureusement, parce que c'est intéressant, sinon, c'est que ça parle en fait de vie extraterrestre, mais pas du tout de la façon la plus classique, et tu vas pas croiser des petits zones vertes qui vont sortir et qui vont tirer dessus, quoi. C'est d'accord. Beaucoup plus intéressant et subtil que ça, et ça parle aussi de rapports entre les humains, entre de guerre entre des humains, etc. Mais c'est fait de manière assez subtile, et c'est assez chouette. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment bien.
D'accord.
Avec le warning que je mets sur le fait que c'est un jeu qui est lent, contemplatif.
Ouais. Bien sûr.
Des fois, il se passe pas grand chose, mais t'es là pour profiter du paysage, quoi.
C'est dispo un petit peu partout, donc si ça vous a tenté, vous pouvez y aller. Et tu as également joué à A Highland Song.
Ouais. Tu te souviens de celui-là ou pas? C'était un jeu qu'on avait repéré dans Nintendo Indie Showcase.
Indie World il y a quelques semaines, quoi.
Voilà, exactement. Et c'est un... pour moi, c'est un gros coup de cœur, pour le coup. Je ne m'attendais pas du tout à... Alors, c'est un jeu que j'avais repéré quand même dans le showcase, parce que visuellement, je trouvais qu'il avait un truc. Et en fait, c'est un jeu qui est extrêmement surprenant, parce que, en fait, quand on voit le trailer, je ne sais pas si tu te souviens du trailer, là il tourne, on a l'impression, on se dit quoi? Bon, c'est une sorte de jeu de plateforme, avec des éléments de rythme, où tu vas devoir régulièrement taper en rythme sur de la musique écossaise. Et en fait, pas tout à fait. C'est beaucoup plus c'est beaucoup plus surprenant que ça. Et en fait, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est un jeu qui est développé par Inkle. Et Inkle, c'est le studio qui avait fait 80 Days et Heaven's Vault, qui sont des jeux, je sais pas si tu vois ce que c'est, qui sont des jeux extrêmement narratifs. Et Heaven's Vault, par exemple, c'est un jeu qui te demande littéralement de traduire une langue étrangère. Et 80 Days, c'est un jeu d'aventure textuelle dans l'univers du Tour du Monde en 80 jours. Et en fait, ce côté narratif, textuel et histoire à embranchement, il est complètement retranscrit dans le jeu. Et de manière absolument étonnante. Je trouve que c'est un jeu qui est étonnant, parce qu'en fait c'est plus un jeu d'exploration à la fois d'environnement et d'exploration narrative qu'un jeu de plateforme classique, on va dire. Puisqu'en fait on est très rapidement, on a une jeune fille qui s'appelle Moira qui vit seule avec sa mère dans une maison complètement perdue en Écosse. Tu sens que voilà, ils sont un peu seuls au monde, et en fait elle a envie de voir autre chose. Elle a jamais vu la mer, elle en a marre, et elle décide de se barrer. Voilà, elle se barre, elle part visiter la lande et la montagne, avec dans le but en fait de rejoindre son oncle, qui est une sorte de, apparemment, de vieux marginal un peu bizarre, qui est gardien de phare. Et voilà, elle sait que son oncle l'attend chez lui, parce qu'elle a jamais vu la mer. Elle veut voir la mer. C'est tout bête. Sauf qu'elle connaît pas le chemin. Et toi, tu connais pas le chemin non plus. Et en fait, le gameplay de base, c'est de gravir. C'est de trouver des morceaux de cartes qui sont des vraiment des dessins mis comme ça un peu partout, et de gravir des montagnes pour ensuite observer l'environnement et de repérer, en fait, par rapport au morceau de carte que tu as trouvé, de repérer le chemin qui est mis en valeur sur le morceau de carte. Je ne sais pas si tu vois ce que...
Je ne suis pas sûr de comprendre, mais...
En fait, régulièrement,
ça te guide, c'est genre « va par là », quoi.
Ouais, mais justement, c'est un peu. En fait, c'est la seule façon de trouver ton chemin. Tu dois en fait dézoomer sur. En fait, t'as un système de dézoom qui est vachement impressionnant sur quasiment toute la map. Et tu regardes l'environnement par rapport où tu es et par rapport au morceau de carte que tu as trouvé. Et tu vas pointer dans l'environnement réel ce qui correspond à ce que la carte te montre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Plus ou moins.
Et en fait, une fois que t'as fait ça, ça va te donner un chemin ça va te donner un chemin à prendre ou pas d'ailleurs, parce que tu peux ne pas prendre ce chemin. Et voilà. Et c'est honnêtement, c'est un jeu qui m'a extrêmement surpris. Pareil, régulièrement, t'as des moments donc où la gamine Moira donc dévale des pentes en courant, et là du coup d'un seul coup il y a une musique écossaise qui démarre très rythmée et tu dois sauter en rythme en fait avec des boutons. Franchement, c'est des séquences qui sont trop cool. Enfin, le jeu est super beau. Il y a vraiment cette impression de... disons que le folklore écossais, je le connais pas tant que ça, mais ça m'a super donné envie de m'y intéresser parce que ça raconte... Et en même temps, t'as une voix off qui te raconte des légendes écossaises, t'as la jeune fille qui parle également de sa vie à elle, etc. Donc, t'as une narration qui est très éclatée. C'est assez déstabilisant au début parce que t'es pas sûr de comprendre exactement tout. Mais tu captes comme ça des morceaux d'histoire qui sont toujours très poétiques, très belles. Et moi, en fait, j'y ai joué, tu vois, j'y ai joué hier dans le train quand je rentrais. J'étais en déplacement à Londres et j'y ai joué d'une traite pendant tout le train. Et j'étais hypnotisé par ce jeu, quoi. Vraiment, c'est un truc que je ne pouvais pas m'arrêter de jouer parce que je trouve que le jeu est hypnotisant. Malgré le fait qu'il soit un petit peu, par moments, un petit peu injuste. C'est-à-dire que des fois, les mouvements ne réagissent pas très bien, tu galères un peu à grimper, etc. Alors, je ne sais pas si c'est voulu ou pas, mais il y a des moments un petit peu de frustration. Dans l'exploration pure, et même il y a des moments où tu es un peu perdu, tu sais pas trop où aller, etc. Donc tu dois un peu faire demi-tour et tu finis toujours par trouver ton chemin. Mais c'est un jeu ultra intéressant, ultra surprenant, et je m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais à un jeu de plateforme façon, tu sais, un peu gris ou comme
complètement,
ça.
Oui, c'est avec l'image que donne le...
En fait, non, c'est beaucoup plus que ça et c'est beaucoup plus original. Et en fait, quand j'ai appris que c'était Inkle qui faisait ça, donc les gens qui ont fait les jeux que j'ai cité tout à l'heure, j'ai compris en fait que oui, c'est aussi un gros truc narratif très particulier, mais moi je trouve ça génial, j'adore.
C'est aussi 5-6 heures
Je sais pas, je pense que c'est plus long, je ne l'ai pas encore fini. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de... Et clairement, ce que ça sous-entend, c'est qu'il y a énormément d'embranchements scénaristiques et plein de trucs que tu ne verras pas si tu décides de faire ci ou ça. Donc j'ai l'impression qu'il y a une sorte de rejouabilité assez folle. Donc je ne peux pas te dire, parce que je ne l'ai pas encore terminé, mais je pense que je ne dois pas être très long pour faire une partie en ligne droite, on va dire.
Ok, donc, et c'est disponible sur au minimum Switch
sur
et
Switch,
PC.
PC, je ne sais pas si c'est sur console, mais moi j'y joue sur PC. Mais,
D'accord. Je vais essayer de vérifier. Highland Song, je ne sais plus. Mac, Windows et Switch. Donc,
donc il n'est pas sur. Il est pas... Pas Après, sur bon, les c'est le genre de jeu portable, c'est un jeu portable parfait. Hein. Moi j'y joue sur Roguelite, mais c'est clairement le jeu que tu peux faire sur console portable. Quoi.
C'est également ça sent le jeu passable aussi. Il est à 15 boules, donc c'est pas très cher.
Ouais, alors ouais, c'est vrai. Après, je trouve ça. Enfin, j'aime vraiment bien Invisible, mais je trouve que Island Sword a un truc assez unique,
c'est au-dessus,
qui est vraiment impressionnant.
D'accord.
Ouais.
Très bien. Et écoute, de mon côté, j'ai joué à peu de choses. Les enfants malades, hein. Vous l'avez bien compris. Par contre, j'ai joué un petit peu à League of Legends encore. Comme je disais la semaine dernière, je suis vraiment aujourd'hui assez investi dans le jeu. Et on va faire un épisode spécial, normalement, pour essayer de parler aux gens qui ne connaissent pas ou qui ne sont jamais rentrés dans League of Legends, et même peut-être des gens qui y ont joué à un moment et puis qui en sont repartis et qui voudraient avoir un petit contact avec le jeu. On va en faire un... Je vais l'enregistrer normalement demain avec des gens du Discord et je verrai quand je le publierai, soit bientôt, soit pour la période de Noël. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir... De vous partager cette découverte que j'ai faite à un moment inattendu, 15 ans après la sortie du jeu, du plaisir... de League of Legends et pourquoi ce jeu auquel, si vous n'y avez jamais joué jusqu'à maintenant, j'imagine que vous avez, vous avez une certaine image de ce jeu, et peut-être, par certains moyens, la confirmer, et par certains autres moyens, l'infirmer, et vous expliquer au moins pourquoi on peut y prendre du plaisir, en tout cas, mon petit niveau. Donc, League of Legends, voilà, de mon côté, je me fais mes 2-3 parties le soir... avant de me coucher quand les enfants sont enfin au lit et que j'ai un tout petit peu de temps devant moi. Et d'un autre côté, alors c'est pas vraiment un jeu, mais c'est la compétition 2023 de Splatoon. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que mon fils aime bien, depuis qu'on a vu les Worlds, justement, il y a quelques semaines, ensemble, je lui ai montré des compétitions, je lui avais déjà montré avant des compétitions de Rocket League, il adore, et comme il aime Splatoon aussi, je me suis dit, mais alors je sais que Nintendo n'est pas très porté sur l'e-sport, mais peut-être qu'on pourrait, vous savez quoi, je ne vais même pas passer les images, parce que Nintendo, ils sont tellement pénibles, qu'il serait capable de me striker les vidéos juste pour les images de leur compétition. Donc, j'ai juste laissé des images statiques. Mais il y a des championnats du monde de Splatoon, ce que je ne savais pas. Il commence avec une vidéo, enfin, avec un match compétition entre des lycées. Donc, c'est très mignon. C'est vraiment genre, oh, regardez, exhibition entre les lycées. Voilà, il y a le lycée de O'Day et le lycée de Bishop Blanchett qui font leur compétition. Et c'est marrant, il y a les lycéens qui sont là, qui se fist-bump, tout ça. C'est une expédition, mais après, il y a vraiment genre les deux demi-finales et les deux et la finale qui est jouée. Et tu sens que c'est pas les excès de l'e-sport traditionnel, t'as pas les scènes extravagantes. Là, c'était dans le cadre du, je sais plus comment il s'appelle, Nintendo World, machin, enfin, un petit salon. Et il y avait une petite salle dans un coin dans laquelle il y avait donc les championnats de Splatoon. Ils ont 400 000 vues, c'était en septembre, vous voyez, sur la vidéo YouTube. Donc, c'est pas le truc fou, mais ils s'en foutent. Ils le font de leur manière et il y a des joueurs compétitifs. Alors, j'imagine qu'ils sont pas pros, hein, ils sont tous très jeunes. T'as l'impression que c'est tous des lycéens ou des gens qui sont à l'université. C'est ce genre de public et ça convient très bien à Nintendo. Leurs présentateurs sont assez jeunes aussi. C'est ambiance hyper lycée, hyper clean. C'est Nintendo, mais ça existe. Et je savais pas que les championnats de Splatoon 3 existaient. C'est contrôlé à un point énorme. Et ça me confirme à quel point la motivation de Nintendo dans son approche de l'e-sport, c'est on gère, on fait les choses comme on veut qu'elles soient faites, arrêtez de mettre vos sales pattes là, vos sales pattes de joueurs sur nos compétitions, c'est nous qui gérons, on veut pas qu'il y ait de merde, on veut pas qu'il y ait de conneries, on a une image à protéger, donc on le fait. On vend des jeux par palette entière, de toute façon. On n'a pas besoin de vos conneries avec vos e-sportifs qui vont déraper, qui vont aller dire des trucs là, qui ne vont pas nous plaire, et faire les abrutis sur Twitch. C'est nous qui le faisons, et c'est tout. Et donc, ça a vraiment confirmé cette image que j'avais d'eux, de voir ce truc. Mais ça existe. Donc, tu peux mettre ton fils...
Est-ce que tu sous-entends que Nintendo serait contre le fric ? Ça m'étonne, ce serait bien la première fois qu'on dirait ça.
Alors, certainement pas, mais l'e-sport, c'est pas ça qui rapporte de l'argent, tu vois.
Pour Nintendo, non, c'est sûr.
Non, pour Nintendo, non, mais pour personne. Aujourd'hui, il y a très, très peu de sociétés qui font de l'argent avec l'e-sport. Je ne serais pas surpris qu'il n'y ait personne. Je crois qu'il est de notoriété publique que pour League of Legends, qui est, donc on peut dire sans doute, l'un des ou peut-être le plus gros e-sport du monde, l'e-sport fait perdre de l'argent à League. Enfin, à Riot, j'entends. Évidemment, c'est un loss leader, un investissement pour ramener des gens sur le jeu et ça marche très, très bien. Mais
c'est une image aussi, quoi.
C'est ça. Dans le cas de Nintendo, c'est pas pareil. League, c'est un jeu très hardcore avec une énorme partie des joueurs qui s'intéressent à l'e-sport. La plupart des joueurs de Splatoon, ils s'en foutent de l'e-sport. Alors oui, il y en a une petite partie qui, tu vois. Donc je pense que si ça leur rapportait beaucoup d'argent, si ça leur ramenait des joueurs, s'ils investissaient dans l'acquisition de joueurs par ce biais, si ça marchait, évidemment qu'ils investiraient plus et qu'ils seraient moins regardants, tu vois. Mais
c'est justement... Ce que je disais, ce que je... Ce que je disais, c'est est-ce que tu sous-entends pas que Nintendo est control freak? C'était pas ce que je parlais pas d'argent. Control freak.
Ah, control freak, pardon, d'accord.
Okay, avec mon accent pourri, excuse-moi, bah oui.
Alors Nintendo.
Mais t'as raison aussi freak. Sur le côté monnaie, mais oui, bah là, oui, c'est Nintendo, ils sont connus pour ça aussi, à vouloir vraiment tout maîtriser de A à Z et voilà.
Nintendo, enfin, il y a trois sociétés dans le monde qui fonctionnent de cette manière, enfin, auxquelles on pense, il y en a d'autres, j'en suis sûr, mais Nintendo, Apple et Disney. Voilà, c'est les trois sociétés qui veulent absolument complètement contrôler leur image, tout maîtriser. Ils font tout du début à la fin et voilà, et ça rentre dans ce cadre-là, quoi. Voilà donc pour les jeux auxquels on a joué ces derniers temps et on conclut avec le reste des petites news. Alors, c'est pas encore une news, mais on va spéculer parce qu'il y a les Game Awards qui vont avoir lieu dans quelques heures. Et au moment où vous écouterez cet épisode, a priori, vous savez déjà. Mais j'aimerais t'entendre spéculer avec moi. À ton avis,
oh là là.
Il y a une grosse, visiblement une grosse annonce que prépare Microsoft, parce qu'ils disent partout, regardez les Game Awards, surtout, ça va être... quel jeu va gagner les Game Awards ?
Ah, tu parles de ça.
On peut spéculer sur les prix, hein, si tu veux. Tu peux me dire, toi, tu penses que c'est qui va gagner le prix ? On va pas se faire.
La logique voudrait que ce soit Baldur's Gate qui rafle toutes les statuettes. Parce que c'est
ou au moins celui du Game of the Year, quoi. Je pense que...
Voilà, ouais, non. Meilleur jeu, ça me paraît assez évident. Bon.
Ouais.
On verra, même si cette année, ça a été une année folle, hein, mais voilà.
Mais au-delà de ça,
l'annonce, honnêtement,
Microsoft, spécifiquement l'annonce Microsoft, qu'est-ce que ça pourrait être ? Parce que même sur leur compte Twitter, leur compte réseau, ils disent « Ne ratez pas les Game Awards, on a une grosse annonce !» Pour qu'une boîte fasse ça, c'est que vraiment, ils sont sûrs que c'est un gros truc. Alors, quoi, parce que tu peux pas dire « Venez voir !» et après dire « On a une nouvelle manette !»
Est-ce qu'ils ont dit spécifiquement c'était une grosse annonce ou est-ce qu'ils ont dit « Regardez les Game Awards !» Parce que ça peut aussi être plein d'annonces moyennes. Ça peut être, par exemple être, je sais pas moi, une date de sortie pour Hellblade, le premier trailer de gameplay de Fable. Fable, tu vois, ça fait quand même un moment qu'on l'attend celui-là. Ce serait pas déconnant de le voir au Game Awards. Et parce que qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme très grosse annonce à part du gameplay de Elder Scrolls 6, tu vois, mais c'est beaucoup.
Ah non, mais ça, c'est en pré-prod.
C'est très pré-prod. Non, mais voilà, je dis ça parce que. Ou alors, il va y avoir une annonce par rapport au rachat d'Activision Blizzard, mais c'est un peu ça me paraît tôt aussi. Sauf si tu. Honnêtement, chez Microsoft, je t'avoue, j'ai un peu du mal à. Autant Sony, par exemple, présenter un trailer du prochain jeu de Naughty Dog, ça me paraît pas déconnant, tu vois. Ça pourrait être arrivé à ce moment-là, même si je pense qu'ils garderont peut-être ça pour l'été prochain, mais bon, c'est pas impossible. Chez Microsoft, je sais pas trop, je t'avoue.
Écoute, la théorie d'un truc avec Activision Blizzard, ça me paraît pas complètement fou, parce que, je disais le contraire avant, mais on a eu des chiffres selon lesquels, en Europe en particulier, la PlayStation 5 se vend beaucoup, beaucoup plus que la Xbox. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai eu l'info par un site anglais, alors que la source, c'est Oscar Le Maire, c'est Ludostri. Donc, c'était assez drôle. Je ne retrouve même plus, j'avais gardé quelque part le lien vers Ludostri spécifique, mais... et voilà, je l'ai. Et en fait, ça peut vouloir dire que Microsoft voudrait... brûler cette cartouche dès maintenant pour que pendant la période de Noël, les gens se disent bon bah il y a tous les jeux Blizzard qui arrivent sur le Game Pass, je vais acheter une Xbox plutôt qu'une PlayStation. Tu vois, s'ils disent alors Diablo, tous les persos d'Overwatch, un abonnement à World of Warcraft à prix réduit et toutes les extensions, tu vois ce genre de trucs pour pousser les gens à acheter une Xbox plutôt qu'une PlayStation pour la période de Noël qui est tellement importante. Ils ont prévenu, ça ne va pas pouvoir se faire maintenant. Et moi, je me disais, bon, bah, va devoir attendre février-mars, tu vois, pour que quelque chose se passe. Mais le fait de l'annoncer...
Ouais, c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux, effectivement. Surtout maintenant que Call of Duty est sorti, Diablo 4 est sorti, il risque moins de vampiriser les ventes, tu vois. Parce que les gens ont globalement acheté les jeux, enfin, tu vois, même si Call of Duty, c'est un peu compliqué cette année. Mais effectivement, sur le chat, il parle aussi d'une nouvelle console. Alors, une nouvelle console, une déclinaison de la Series X.
Ouais.
On sait qu'ils bossent sur une version 100% débat ou une version slim, je sais pas quoi. Mais est-ce que c'est une grosse annonce, ça ?
Non, ouais, je sais pas. Non. Au contraire, la console, tu dis, bah, elle arrive en 2024 parce qu'ils vont pas la sortir maintenant. Bah, les gens se mettent à arrêter d'acheter la console actuelle, tu vois. Donc ça, tu fais pas un grand bruit dessus avant qu'elle soit sortie, et surtout pas juste avant la période de Noël, je pense. Ça, j'y crois moyen. Moi, le nouveau jeu Blizzard, je crois pas non plus. À mon avis, il garde ça.
Non, non plus. Oui. Moi, le truc que je voudrais voir, mais c'est très perso, et je pense que la moitié des gens qui écoutent l'émission s'en foutent, c'est d'avoir des nouvelles du jeu Indiana Jones développé par Machine Game. Celui-là, il me fait super envie, parce que Machine Game, c'est le studio qu'on fait Wolfenstein, et c'est des jeux super, et je trouve que Indiana Jones et Machine Game, ça peut être un match hyper bon, et j'aimerais tellement avoir enfin des nouvelles de jeu, quoi.
Écoute, on aura les infos au moment où vous écoutez cette émission, donc vous saurez si nous sommes heureux ou tristes. À propos de Microsoft, c'était marrant, il y a à la même période où on a eu la confirmation que Microsoft travaillait vraiment avec ses partenaires pour lancer un store mobile, a priori, l'année prochaine. On va voir ce que ça donnera, mais on a eu, donc à peu près à ce même moment, qui c'était ? Tim Stewart, le Chief Financial Officer de Microsoft, de Xbox, qui a dit dans une interview « Oh, on adorerait amener le Game Pass sur toutes les consoles, sur PlayStation et sur Switch ». Et la seconde d'après, Phil Spencer est allé donner une interview pour dire « Non, mais on n'a pas de projet. Calmez-vous, vous emballez pas. Non, on n'est pas en train de le ramener sur PlayStation et sur Switch. » Donc, c'était plutôt drôle qu'ils doivent faire ce walkback de cette... Ce qui n'était pas une annonce, c'est juste qu'ils adoraient, et ça, on le savait, qu'ils voulaient le faire. L'autre annonce, c'était le fait qu'ils veuillent faire un store mobile. Et du coup, cette annonce, ça pourrait aussi être ça, store mobile, et cette annonce des Game Awards, store mobile, il arrive bientôt, en 2024, en mars, ouais, quand le DSA entre en jeu, et on aura Fortnite sur mobile dans notre store, quoi, avec un tarif préférentiel pour Epic, évidemment.
Est-ce que les Game Awards sont un endroit pour ça, pour un
comme non, ça, non, je crois pas, je crois pas. Le truc du Game Pass, c'est plus de Blizzard dans le Game Pass.
Par contre, sur le chat, ça parle de Baldur's Gate sur Xbox, et il y a un coup qui serait énorme à jouer, ce serait qu'ils annoncent la sortie de Baldur's Gate sur Xbox et la disponibilité de Baldur's Gate 3 dans le Game Pass. Il serait monstrueux, tu vois.
Ça serait marrant.
Je sais pas si aujourd'hui l'Ariane, ils sont en position de force aussi, mais et je sais que relations entre l'Ariane et Microsoft ont été compliquées ces derniers temps parce que ils ont galéré à adapter le jeu sur Xbox Series S. Mais ce serait assez fort d'annoncer Baldur's Gate dans le Game Pass.
Ça serait pas mal, j'avoue. Ça serait pas mal. Au moment où ils gagnent le GOTY, tu vois, oui, c'est plutôt cool. Alors, si tu fais le super combo Baldur's Gate dans le Game Pass, et oui, il paierait très très cher à l'Ariane, hein, évidemment, mais tout le monde a un prix, je veux dire, c'est évident que l'Ariane dirait oui s'il paye assez, quoi. Je veux dire, on vous paye l'équivalent de la vente de 3 millions de Baldur's Gate sur Xbox, bah oui, tu le prends là, à ce moment. Donc, Je tiens à ne pas remercier la personne dans le chat qui dit une date de sortie pour le Night Skill Song. Tu l'as jinxé. Voilà. Maintenant,
le mec a cité Voldemort. Là, ça y est, c'est ça. Foutu, quoi. Il faut pas le dire, quoi.
Donc voilà.
Quoi, j'y pensais même pas en plus à Skill Song, mais il pourrait être dedans. Mais bon, on dit ça à chaque fois. On dit ça à chaque événement. Donc,
à chaque événement.
On va arrêter, quoi.
Il y a un article intéressant d'IGN sur l'ambiance chez Bungie, le développeur de Destiny 2, dont tu me parlais de cet article en préparant l'émission. Peut-être que tu veux nous en parler un petit peu.
Je l'ai lu hier soir.
Mais il est sorti hier soir.
En gros, ça dépeint un portrait assez triste et chaotique de ce qui se passe actuellement chez Bungie. Donc, depuis qu'il y a eu des licenciements, ils ont licencié, je crois, une centaine de personnes.
Il y a
un mois, peut-être, je sais pas, comme ça. Et en fait, depuis, cette enquête, en tout cas, révèle que il y aurait beaucoup plus de choses assez moches qui se passeraient chez Bungie, notamment des réductions de coûts drastiques à peu près à tous les niveaux de la société, donc que ce soit des avantages de salaire, des couvertures sociales, des des avantages en nature, des choses qui étaient acquises par Bungie. On leur a coupé des trucs, réduction de budget, quoi, global. Et apparemment, ce qui se passerait, c'est qu'il y aurait une sorte de, plus ou moins, de guerre au niveau du board entre Bungie, la direction qui vient de Bungie, et la direction qui vient de Sony. Parce qu'on rappelle que Sony a racheté Bungie il y a quoi, 2 ans maintenant, je ne sais pas,
un an et demi,
je ne me souviens plus. Et donc, cet article révèle que si, en gros, Bungie n'atteignait pas certains objectifs, Sony aurait le droit, entre guillemets, de remanier le board et de prendre, du coup, totalement le contrôle de Bungie avec un board 100% Sony. 100% Sony.
À ce stade, le board, il est genre 49% Sony, 49% Bungie. C'est ça. Avec le vote qui décide, en gros, qui est le président de Bungie, le CEO qui a le dernier. Donc, a priori, c'est plutôt contrôlé par Bungie.
Voilà, c'est ça. Et par exemple, il faut préciser que les licenciements qu'il y a eu, a priori, sont du fait de Bungie. Sony n'avait pas... C'est pas Sony qui a demandé à Bungie de licencier. Bon, voilà. Donc Sony n'est pas, entre guillemets, le méchant de l'histoire pour le moment, en tout cas.
Avec la petite note que l'article de Rebecca Valentine est vraiment bien fait pour tout ça.
Ouais, ouais.
Donc je vous encourage à aller le lire, et je voulais mentionner son nom. Mais la petite note que, selon Sony... Enfin, selon les conditions de Sony, les conditions pour ne pas remanier le board, c'est des objectifs financiers. Donc,
oui, voilà.
Cette décision de licencier et de réduire les bénéfices viendrait dans le cadre du fait que si tu ne remplis pas tes objectifs, tu as l'épée de Damoclès de Sony au-dessus de la tête. Donc, c'est quand même un peu lié.
Voilà. Et donc, ça dépeint une ambiance assez mortifère aujourd'hui, en ce moment, chez Bungie, avec des gens qui sont la plupart du temps très mal à leur travail, et avec apparemment assez peu de considération au niveau de la direction de tous ces problèmes internes. Tout le monde espère que la sortie de The Final Shape va arranger un peu les choses, en tout cas en termes de nombre de joueurs, etc. Parce que Destiny 2 est quand même en chute depuis quelques temps. Donc ouais, c'est un peu compliqué, parce qu'en plus Bungie, historiquement, c'est un studio qui s'est toujours, qui avait toujours en avant son indépendance, le fait d'être vraiment, même à l'époque où ils étaient avec Activision, ils étaient vraiment, voilà, ils étaient fiers de montrer qu'ils étaient indépendants. Là, avec ce qui se passe par rapport à Sony, on sait pas trop quoi.
C'est un peu compliqué de parler de ce genre d'article, parce que évidemment qu'il y a des problèmes de bien-être et de mal-être et de souffrance chez les développeurs, hein, ça semble clair d'après l'enquête de Valentine. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a un problème qui est plus profond, qui est que Destiny, pour tout l'amour que je lui porte, n'est pas dans une super position, quoi. On dit depuis quelques extensions que, alors il y a des trucs bien, mais il y a beaucoup, et ça tombe bien parce que ce genre d'article, tu le lis sans connaître le jeu, je pense que ça t'en donne une image un petit peu différente de si tu as suivi l'évolution du jeu. Et depuis, 3 ans, au niveau du jeu lui-même, il y a peu d'évolution, peu de choses intéressantes, il y a des choses bien, mais d'une manière générale, j'ai l'impression que le public s'en détourne plus qu'il ne s'y intéresse. Moi, j'ai eu des périodes où j'étais à fond dans Destiny et je suis le pouls de la communauté, on va dire. Je n'ai pas l'impression que ça soit l'amour fou en ce moment. Vous vous souvenez que je vous avais parlé de l'extension, de la dernière extension qui était du Destiny classique, qui est cool hein, pour quand on aime Destiny, mais qui, au niveau de l'histoire single player, est l'un des trucs pires de ce qu'on ait vu de Destiny, qui est souvent à très bas niveau. Donc c'est un petit peu genre, c'est toujours comme ça, mais il y a eu des trucs mieux, et l'histoire est lamentable, et c'est une sorte de truc qui a été intercalé au milieu d'une cutscene. Enfin, la manière dont c'est fait, c'est assez hallucinante, l'histoire n'a aucun sens. Enfin bref, cette partie est vraiment mal foutue, et depuis, j'ai pas l'impression que les activités en jeu ou le jeu lui-même aient réussi à reconquérir les joueurs. Pour moi, ce que ça dénote, c'est plutôt, j'irai pas jusqu'à dire une crise dans le jeu lui-même Destiny, mais clairement une baisse de régime. Et ça me paraît pas, dans ce contexte complètement hallucinant, que Sony regarde tout ça et vienne dire, bon alors on a acheté la boîte, les enfants, là vous avez eu un an et demi de vous faites ce que vous voulez, ça fait 3 ans que le jeu se porte pas aussi bien qu'on l'aimerait, vous investissez énormément d'argent dans votre prochain jeu Marathon. Si dans 6 mois, 1 an, les choses commencent pas à s'améliorer un petit peu, Bon bah désolé, il faut que nous, on ait un peu le contrôle sur le truc, quoi. On a racheté la boîte, on en est propriétaire, on peut pas continuer à perdre de l'argent pendant 5 ans sur votre boîte, même si Bungie, indépendant, tout ça, et surtout avec Herman Hurst, merde, comment il s'appelle, le type qui est aujourd'hui à la tête des studios, et Sony qui a une sorte de fierté immense et un petit peu de pas d'audace, je cherche mon mot. Ils sont trop en train de gagner, on le voit sur plein de trucs, ils exagèrent, ils font des prix trop élevés, ils ont l'impression que rien ne peut les atteindre, ils ont une merde, pas une audace, mais bon, bref.
Ils sont sur deux, quoi. Ils sont hyper sur deux, ouais.
Ouais, mais une arrogance, voilà. Ils ont une arrogance qui est un petit peu... Et donc, ça, même en dehors de ça, je pense que quand ta boîte est tellement... perd tellement son chemin et que Destiny est aussi peu... comment dire, réussit aussi peu à remplir sa mission, je suis sûr qu'il y a plein de joueurs Destiny, hein, évidemment, mais on est dans une période qui est creuse pour le jeu... À un moment, tu dis, bon, bah, les gars, fix your shit or we'll do it. Après, la manière dont la boîte elle-même gère ça avec ses employés, bah, c'est jamais marrant, évidemment. Il y a des employés qui sont faits licenciés, certains qui étaient dans des postes historiques. Il y avait des gens qui s'occupaient de les initiatives de diversité et ce genre de choses. Enfin, par exemple, il y a également dans l'article, à un moment, ils disent, bon, bah alors, le leadership, vous allez réduire vos salaires étant donné qu'il faut faire de l'argent. Et on leur répond, non, ça ne marche pas comme ça chez nous, vous voyez. Je dis, tout le monde doit faire un effort. Je comprends tout ça. Mais à la base, le problème, j'ai l'impression, je ne sais pas du tout comment ça se passe chez Destiny, chez Bungie, mais j'ai l'impression qu'à la base, le vrai problème, c'est le cœur du truc, quoi, c'est le jeu. Il faut que The Final Shape réussisse son pari et ramène tous les joueurs possibles. Et le fait qu'ils aient décalé de 6 mois, même un peu plus, qu'ils aient décalé de 5-6 mois, je pense qu'ils parient là-dessus et qu'ils disent il faut qu'on fasse un banger parce que sinon, Sony va prendre les choses en main. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose si Sony prend les choses en main quand ça ne se passe pas bien dans la boîte, quoi. Même si c'est triste pour les développeurs, pour les employés. Et c'est... Je dis, c'est pas forcément une mauvaise chose si Sony prend les choses en main quand la boîte n'arrive pas à se redresser. C'est pas forcément une bonne chose non plus, hein, je sais pas. Mais je comprends le propriétaire de la boîte qui dit, écoutez, nous, on gère nos studios plutôt bien. Regardez Naughty Dog, regardez Sucker Punch, regardez machin. On va prendre des décisions, quoi.
Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que je sais pas comment ça se passe chez les autres. Enfin, tu vois, dans quelle mesure Sony interfère chez Naughty Dog, chez Santa Monica, parce que ça, c'est des studios qui sont intrinsèquement liés à Sony, même en termes d'image, tu vois. Bungie, c'est pas encore le cas. Bungie et Sony, aujourd'hui, les gens font pas le lien. Et tandis que Naughty Dog et PlayStation, oui, c'est évident, tu vois. Donc, je sais pas en quelle mesure Sony interfère beaucoup dans les décisions dans ces studios-là, et s'ils veulent pas appliquer finalement la même méthode chez Bungie. Ce qui serait logique au final, si Naughty Dog et Assembly et compagnie fonctionnent comme ça, pourquoi Bungie ne fonctionnera pas comme ça non plus, quoi.
Ce qui me frappe surtout là-dedans, c'est que les jeux de ces studios, il n'y a que des bangers à répétition. Tu vois, les studios Sony qui sont très liés à l'identité de Sony, où j'imagine que Sony a au moins un petit peu son mot à dire, tu vois, c'est que des bangers. Donc, quand tu es le steward, pas le papa, mais la personne qui a plus ou moins guidé des Last of Us, des God of War, des Horizon, des Spider-Man, tu peux te dire, ok, je peux prendre la tête du board pour dire comment on fait les choses. C'est pas du tout incohérent.
Il y a un savoir-faire quand même.
Voilà, c'est ça. C'est pas du tout incohérent. Donc c'est une vision et qui ne ni pas du tout tout ce que dit Valentine dans son article, hein. Mais j'espère que c'est un éclairage qui est un petit peu différent sur ce sujet, qui peut être traité de manière un petit peu orientée parfois en se disant, ah bah merde, regardez, c'est la merde, c'est chez Sony, les employés sont malheureux, tout va mal. Ah oui, mais le problème, c'est la merde chez Sony, c'est la merde chez Bungie, tout va mal. Mais oui, mais ça va mal parce que le jeu, ça se passe pas bien, quoi. C'est ça le problème. C'est pas les overlords Sony qui sont dessus. Au contraire, ils touchent à rien. Donc, et c'est pas ce que dit l'article non plus. L'article dit Bungie gère mal son coup. Et c'est peut-être pour ça. Valve a fait un truc plutôt cool, comme souvent chez Valve. Ils ont sorti une application Steam Link pas sur téléphone, pas sur box télé, mais sur Oculus Quest. Enfin, MetaQuest, pardon. Il y a désormais une app sur MetaQuest 2, 3 et Pro qui vous permet de streamer vos jeux Steam VR directement. Alors, c'était déjà possible. Hein. On pouvait connecter le truc, le système MetaQuest à Steam et utiliser les jeux comme ça. Mais là, c'est beaucoup plus simple. On lance l'app Steam, Steam Link et on peut jouer aux jeux VR sur son Quest. C'est super cool. Bravo Steam, bravo Valve. Ça m'a donné envie de rallumer mon Steam, mon MetaQuest.
Ton Oculus Quest, enfin ton ouais, MetaQuest, ouais.
Bah oui, parce que là, alors la qualité du matériel reste la même, bien sûr, mais du coup, je peux me connecter facilement à SteamVR. Et le fait qu'il soit plus supporté par Meta, ce qui m'énerve beaucoup, a moins de conséquences, tu vois, si Valve a son app de toute façon.
Ouais.
Cyberpunk est fini. Ça y est. Ils arrêtent avec le patch 2.1 le développement. Alors, ils disent c'est la dernière update majeure. Il y aura peut-être des bug fixes, ouais. Des trucs comme ça. Mais ça y est, le jeu est fini. Donc, vous pouvez y jouer maintenant.
So long. Ouais. Maintenant, on attend des nouvelles de la suite, de 2078. allez. Vous n'allez pas, pas vous arrêter en si bon chemin.
Je pense que là, tu sais, c'est quit while you're ahead, pour un petit moment au moins. Ils ont réussi plus ou moins à regagner les faveurs de l'opinion populaire avec des mises à jour qui sont quand même plutôt très bien reçues. D'ailleurs, la mise à jour 2.1 rajoute genre le métro et plein de petits trucs, c'est une update importante. Là, si tu annonces 2078, tout le monde te retombe sur la gueule. Évidemment, ils vont attendre un moment.
Je rappelle quand même qu'entre l'annonce initiale de Cyberpunk 2077 et la sortie, il s'est passé quasiment 10 ans. Hein, donc, on a le temps. Et effectivement, le prochain, ce sera The Witcher. On sait très bien que tout le monde travaille beaucoup là-dessus.
Ils ont besoin d'un win, en fait. Ils ont besoin d'un win avant de relancer Cyberpunk. S'ils réussissent le prochain Witcher et que tout le monde l'adore, on pourra se dire OK. Le prochain Cyberpunk.
Mais Cyberpunk, c'est un cas de rédemption absolument dingue. Hein, parce que maintenant, tout le monde s'accorde à dire que le jeu est formidable. Moi, c'est mon Phantom Liberty, c'est quasiment mon jeu de l'année. Je ne révèle pas tout de suite
nos discussions de fin d'année.
Nos discussions de fin d'année, mais il fait partie. Voilà, il est très, très haut dans mon top. C'est dingue quoi, ce qu'ils ont réussi à rattraper. Quoi.
Peut-être la deuxième plus belle rédemption avec. Hello Games.
No Man's Sky.
No Man's Sky. Ouais.
No Man's Sky.
Je crois que c'est à peu près tout. On peut mentionner le fait que EA a sorti Dragon Age Dreadwolf de sa cage. Juste pour.
Pour le coup, lui, il sera au Game Awards. Ça a été quasiment confirmé. Je crois qu'on aura un trailer, peut-être du gameplay enfin. Alors celui-là, je l'attends aussi. Hein. Je suis curieux. Je redoute en même temps. Je suis curieux parce que quand même c'est BioWare quoi. Enfin, j'ai toujours foi en BioWare malgré tout ce qui s'est passé. Donc, voilà.
C'est le syndrome de Stockholm.
De Stockholm.
J'y
crois toujours. Voilà.
Tu fais pas un teaser comme ça où t'as juste genre trois panoramas sur trois paysages, enfin trois villes différentes. Si t'as pas quelque chose à montrer après, là c'est pour éveiller l'intérêt au niveau stratégie de communication. Tu dis aux gens, on existe toujours. Vous vous rappelez de nous? Comme ça, quand le gros trailer arrive au Game Awards, les gens disent ah ouais, ça c'est Dreadwolf, je le connais.
C'est vrai. Voilà.
J'ai aussi vu le trailer de la saison 8 de Overwatch. Avec le nouveau tank Moga. Et autant, je vous disais la semaine dernière, le skin mythique du personnage Orisa est bien pourri. Enfin, c'est une réédition d'un skin qui existait déjà. Autant, tout le reste de ce qui monte dans le trailer, tous les, les skins sont plutôt cool. Franchement, il y a plein de skins assez sympas. Il y a des weapon skins, des skins d'armes, plein de petits trucs comme ça qui sont plutôt réussis. Donc, moi, je trouve ça... Il y a un petit thème Monster Hunter, d'ailleurs. C'est comment ils appellent la saison ? C'est Call of the Hunt. Bref, Overwatch, peut-être que j'y jetterai un coup d'œil. Si League of Legends me laisse du temps. Et puis enfin, un autre truc que je mettrai dans la newsletter, le trailer de Fallout. Tu l'as vu celui-là ? De la série, hein, j'entends. De la série
Amazon Prime. Ouais, je l'ai vu, ouais. J'étais plutôt séduit, en fait. Je t'avoue que, tu vois, Déjà, ça a l'air d'être bien produit, il y a l'air d'avoir de la thune. C'est quand même pour une série de science-fiction, ce qui est quand même hyper important. Et franchement, ça m'a donné envie. Après, il y a l'air d'avoir. Alors, ils insistent sur le côté par les producteurs de The Boys et tout, donc il y a l'air d'avoir une espèce de violence un peu outrancière, un peu trash. Bon, ça, je sais pas si ça va pas un peu me gaver au bout d'un moment, mais bon, à voir.
Ils sont pas obligés de faire exactement la même chose.
Non, bien sûr, bien sûr. Puis je pense qu'il y a, il y a forcément Bethesda derrière qui veille à ce que ça respecte un minimum le truc. Voilà. Et puis en plus, moi, n'étant pas un Ayatollah de Fallout ou plein de gens, tu voyais sur Twitter, enfin sur Twitter, sur les réseaux, des gens qui disaient ah, mais de toute façon, en gros, depuis que Bethesda fait Fallout, c'est plus Fallout. Enfin, à un moment donné, faut arrêter, les gars, faut passer à autre chose, quoi. C'est-à-dire que oui, Fallout 1 et 2, c'est des jeux géniaux. Mais maintenant, Fallout, c'est Bethesda, ils le font à leur sauce. Et ouais, si vous aimez pas, voilà. Donc, évidemment que c'est un Fallout qui va être dans l'esprit Bethesda et pas dans l'esprit des jeux des années 90. Donc, voilà. Et tu vois, depuis le cas The Last of Us, je suis vachement plus avec intérêt les adaptations de jeux vidéo en série. Donc celui-là, ouais, je vais carrément regarder quand ça sortira. Ouais.
Bah du coup, tu seras heureux d'apprendre que la saison 2 de Halo va arriver aussi. Non, tu t'en fous.
Ah, ça, par contre, j'ai pas vu la saison 1. J'ai pas vu. Ouais, disons qu'il faut quand même que j'ai un minimum d'acquaintance avec l'univers.
Pour vous rappeler les jeux gratuits auxquels vous avez droit, sur Prime Gaming, il y a plusieurs jeux. La plupart, on s'en fout, mais il y a Deathloop. Donc, si vous voulez jouer à Deathloop, voilà. Et dans le Game Pass, il y a les deux jeux Remnant. Et dans le Discord, il y a plein de gens qui parlent de Remnant. C'est Remnant 2, enfin le deuxième, je ne sais même plus comment il s'appelle. C'est Remnant 2.
Il y a Remnant, From the Ashes et Remnant 2.
C'est ça. Et beaucoup de gens...
Attends, c'est l'espèce de TPS cowboy, enfin au Far West un peu, non?
Je me souviens même plus, le recommande. C'est ça, ouais.
Ouais. Ça, en fait, c'est des sortes de jeux un peu sous-cotés. Et je crois que j'ai joué vite fait au premier, mais je me souviens plus. Mmh. Bah, tu vois,
c'est un petit peu Dark Soulsien, mais pas vraiment. Enfin, tout le monde en dit voilà. Que du bien. En fait, il y a plein de gens parce qu'il est sur le Game Pass. Je crois que c'est Johan sur notre Discord qui en a fait la pub. Et il y a plein de gens qui l'ont essayé depuis. Et tout le monde est genre, oh, mais c'est vachement bien. Attends, mais c'est génial, Remnant 2. Machin. Donc, écoutez, il est dans le Game Pass. Et puis j'aurai aussi dans les newsletters une review du Sony Access Controller, vous savez la manette qui est faite pour les personnes en situation de handicap, qui est visiblement pas mal, et un article super intéressant sur les conséquences des investissements que fait l'Arabie Saoudite dans le jeu vidéo. C'est un article de The Verge qui est vraiment intéressant et qui parle aussi des investissements dans le sport, dans la culture et dans le jeu vidéo. Donc, il sera dans la newsletter si ça vous intéresse. Vous pouvez vous abonner à la newsletter. Le lien est dans les notes de l'émission et sur notepatrick.com. Je crois qu'on a fait le tour, mon Jika.
Bah écoute, finalement, tu vois, ça a duré parce que...
Écoute, la durée d'un épisode normal, 1h30 à peu près.
Voilà.
C'est fou.
Bien.
J'ai passé un excellent moment, évidemment, en ta compagnie. Est-ce que tu peux nous dire où on peut prolonger ce moment et ta compagnie ?
Le plaisir, oh là là, bah, il y a de l'actu sans ZQSD, enfin. Je le redis, mais on a toujours nos deux numéros là, qui viennent de sortir, donc le numéro classique, on va dire, on s'engueule un peu sur Alan Wake 2, enfin on s'engueule pas, mais... Voilà, disons que mes collègues ont un avis absolument désastreux sur Alan Wake 2 et j'essaye un peu d'apporter un peu de sérieux dans tout ça. Et on a aussi évidemment notre interview de Jordan Mechter et d'Eric Shade, dont on est très fiers, qu'on a fait à Montpellier le mois dernier. Et j'annonce, attention, c'est une excuse que je balance Patrick là.
Oula.
On l'a pas encore annoncé encore.
Que vous allez faire un nouvel épisode où vous allez parler de jeux PC et des Game Awards. À un moment là, bientôt.
Ça, il y aura ZQSD continue. Voilà,
c'est okay,
ça.
Ok, d'accord. Non, wow,
en fait, l'info, c'est qu'en général, en décembre, on essaie de faire notre bilan de l'année comme tout le monde. Et cette année, on va le faire avec nos amis de Silence on Joue. On va organiser un crossover. Oh, voilà, on organise un crossover en plus autour d'une table en physique. Donc, on va être 11. Ça va être un bordel sans nom. Mais voilà, on organise un petit bilan de fin d'année avec Silence on Joue. Donc, là, voilà, je vous balance l'info en exclusivité. On enregistre ça dans une semaine ou deux, je sais plus, un truc comme ça.
Super.
Donc voilà, ça va être cool.
Écoute, on avait fait un crossover du podcast Universe avec Silence on Joue, avec Erwan, il y a pour la sortie de Zelda. Et, tout à fait, tu t'en souviens. Et du coup, vous faites, vous continuez le multivers.
Si je continue à être invité, voilà, ça devient une sorte de podcast de PCU, podcast cinématique universe.
Ouais,
je sais
c'est
pas,
ça.
Où, je sais pas
non,
comment.
Quelque chose
un nom,
de multi podcasting universe. Au PU.
Ouais, voilà, oui, le MC, le MPU, le multi podcasting universe. Ouais.
C'est ça.
C'est ça, bien, un truc dans le genre.
Écoute, j'ai très hâte d'écouter ça. J'aurais voulu être avec vous pour manger des chips et boire de la bière. Malheureusement, depuis la Finlande, ça va être dur. Mais on écoutera ça, ça sera comme si on y était. Vous allez faire une captation vidéo, tout ça, ou quand même pas ?
Alors, a priori, on ne le fera pas en live sur Twitch, parce que trop compliqué à 11 et tout. Non, alors après, on va voir comment on publie. C'est possible qu'on publie en deux parties. Une partie chez ZQSD, une partie chez Silence On Joue, pour essayer de... Déjà, ça risque d'être un peu long, hein, je ne vais pas se mentir. ça risque d'être un poil long, donc il va falloir qu'on voit comment on se débrouille. Mais ça c'est encore en discussion, quoi.
Ouais. Très bien. On nous dit à quand le cross rendez-vous jeu Silence on joue à ZQSD Cozy Corner. C'est quand le multi-podcasting universe sera allé trop loin, là. Tu vois, là, c'est quand tu dis ah non, mais avant, c'était mieux avant.
Ça s'appelle Origami, ça déjà. C'est pas vraiment Origami.
Bon, merci Jika. Pour ma part, c'est Notepatrick sur tous les réseaux sociaux. Les liens sont dans les notes de l'émission, les liens du Discord, dont je parle souvent, on s'amuse bien, les liens pour s'abonner à la newsletter, et bien sûr, les liens pour soutenir l'émission sur Patreon, patreon.com/rdvjeux. Je vous remercie tous et toutes de votre écoute et de votre soutien. Et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un prochain épisode. Les choses s'approchent, là. On approche de la fin de l'année. Tu sais qu'on fait notre épisode GOTY la semaine prochaine, hein, JK, t'as pas oublié.
Je sais.
Très bien.
T'inquiète
très
bien. Pas. Je prépare mes tops, là.
Je sais pas comment... Moi, c'est une année particulière pour moi.
Je suis en train de les polir.
On en parlera. Je vous remercie de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Bisous à tous et à toutes. Ciao, ciao.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. And what better way than with Osea's limited edition skincare sets, featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has two limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes three clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's OSEAMalibu.com, code MOM.